On peut leur en envoyer. Hein. Je peux en envoyer ici si les gens en veulent. Et récemment, j'ai écrit un livre sur Superphénix, ce réacteur qui a été arrêté, qui a coûté en tout à peu près 12 milliards d'euros et qui a été arrêté pour des raisons politiques. Donc j'ai écrit un livre sur les acquis techniques et scientifiques parce que ça nous a coûté assez cher de faire ce réacteur. Et je pense qu'il était intéressant de faire un livre disant ce qu'on avait appris au niveau technique et scientifique sur ce réacteur. Ce livre est en cours d'impression. Il existe au niveau informatique, je peux vous l'envoyer de manière informatique, mais il n'est pas encore imprimé. Il va arriver dans 2 mois à peu près. Donc vous voyez, j'ai couvert le volet Phoenix, Super Phoenix. Ce sont les réacteurs rapides à sodium, je ne sais pas si vous connaissez. Tous les réacteurs qu'on a en France, c'est des réacteurs à eau, c'est une filière classique. Mais il y a une petite filière en parallèle qui suit tout ça, c'est les réacteurs rapides à sodium. C'est un petit peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors l'apprentissage que je vais vous faire va se faire en 3 parties. La première, on va comparer les problèmes environnementaux posés par les différentes sources d'énergie, entre le nucléaire et d'autres sources d'énergie. L'an dernier, c'est l'année de la COP21, et c'est des présentations qu'on a faites au moment de la COP21 pour expliquer aux gens comment le nucléaire, par rapport aux autres sources d'énergie, se plaçait au niveau environnemental. Et ça, c'est un point très important. Ensuite, on va parler des possibilités environnementales des réacteurs de 4e génération. Ces fameux réacteurs au sodium, on va voir qu'est-ce qu'ils apportent au niveau environnemental par rapport aux réacteurs actuels, qui sont déjà excellents, hein. Mais on verra qu'on apporte encore des choses supplémentaires. Et puis après, on parlera d'Astrid. Astrid, c'est un projet de réacteur sodium qui est en cours d'étude depuis 4-5 ans maintenant, qui maintenant a terminé l'avant-projet sommaire, c'est-à-dire qu'on a des schémas du réacteur, et là, on attaque l'avant-projet détaillé. Donc je vous dirai quelques mots sur ce projet de réacteur et pourquoi et dans quel contexte on travaille dessus actuellement. Alors, à la fin de chaque partie, on peut discuter et n'hésitez pas à poser des questions. Des fois, on est spécialiste, on parle d'un problème, on a l'impression que tout le monde connaît et en fait, les gens ne sont pas forcément au courant. Donc, si vous ne comprenez pas, si j'utilise des sigles ou des choses qui ne sont pas compréhensibles, n'hésitez pas à demander. L'important, c'est d'échanger et de comprendre. Mais je vais passer à la première partie maintenant. Alors, il faut que je sorte de là. Comment je l'agrandis déjà? Affichage, voilà. Affichage, non, j'ai vu affichage. Et mode plein écran, voilà. Bon, on n'est pas de... Ok. Donc, on va comparer les problèmes environnementaux posés par différentes sources d'énergie. Alors, quelles sources d'énergie on parle? On parle des énergies fossiles. Alors, les fossiles, c'est charbon, lignite, pétrole, gaz, gaz de schiste, et ainsi de suite. Après, les énergies renouvelables, il y a l'hydraulique, l'éolien, le solaire, de différents types, la biomasse, puis il y en a d'autres, hein. Il y a les hydroliennes, on peut imaginer beaucoup de choses en énergie renouvelable, et puis l'énergie nucléaire. Donc, on va comparer toutes ces sources d'énergie. Quels sont les critères de comparaison? On va les prendre un par un. Disponibilité des ressources, est-ce que les ressources sont disponibles? Les émissions en fonctionnement, les pollutions qu'on apporte en fonctionnement, les déchets. Ces énergies, elles produisent des déchets, qu'est-ce qu'on en fait? La surface nécessaire pour ces énergies, la santé, l'influence sur la santé des gens, de nous. On verra qu'on a le nombre de morts par térawattheure, par exemple. La biodiversité, l'influence de ces énergies sur la biodiversité autour de nous. Et les rôles, on verra ce que c'est après. Alors, disponibilité des ressources, c'est le premier point. Alors, il n'y a pas de problème avec le vent et le soleil, ils sont disponibles. Et encore faut-il qu'on ait les ressources nécessaires à la construction et au remplacement des installations pour utiliser le vent et le soleil. Quand les gens disent le vent et le soleil c'est gratuit, ça veut rien dire. Tout est gratuit. Le pétrole aussi c'est gratuit et puis l'uranium aussi c'est gratuit. Ce qui coûte cher là-dedans, c'est l'intervention humaine pour travailler sur ces produits et puis le droit du sol. Si vous allez chercher du pétrole quelque part chez quelqu'un, il va demander de l'argent, c'est le droit du sol. Si vous mettez des éoliennes sur un champ, c'est pareil, le paysan va vous demander une redevance ou de l'argent. Ça, c'est le droit du sol. Et après, il faut utiliser du matériel, utiliser des gens pour tirer l'énergie, et ça, c'est le deuxième coût. Donc, toutes les énergies sont gratuites, il n'y a pas que le vent et le soleil. Par contre, il faut payer le droit du sol et le fonctionnement. Alors, il y a... Alors, sur la disponibilité, par contre, faut reconnaître que le vent et le soleil, on est assuré d'en avoir. Si on va pomper du pétrole à un endroit, au bout d'un moment, il n'y en a plus, alors que le vent et le soleil continuent à exister. Alors après, pour les énergies fossiles, il y a un problème spécifique aux énergies fossiles, c'est la raréfaction et l'augmentation des coûts d'extraction. Donc on voit bien que les énergies fossiles se raréfient, même si le coût du pétrole est en train de baisser, ils se raréfient et on a des méthodes d'extraction de plus en plus agressives et dans des zones de plus en plus, on va sous la mer très profond, on va fracturer le sol pour tirer les gaz de schiste, enfin on fait pas mal de dégâts quand même. Et on va faire des dégâts de plus en plus grands si on continue à utiliser des énergies fossiles. Parce que quand on voit les prévisions de consommation, c'est toujours des prévisions à 100 ans ou à 200 ans et pas plus, quoi. Et donc, il y a un problème typique aux énergies fossiles sur la raréfaction de ces énergies et l'augmentation des coûts d'extraction. Quand on voit les sables bitumineux, par exemple, au Canada, si vous allez sur Internet et vous regardez un petit peu ce qui se passe au Canada, ils sont en train, sur des régions grandes comme la Belgique, ils ont retourné tout le sable pour en tirer du bitume. Après, ils font chauffer de l'eau en faisant du CO2, ainsi de suite. Ils font chauffer de l'eau très chaude pour dissoudre ces bitumes, en tirer des produits lourds qu'après ils distillent. C'est vraiment n'importe quoi. Hein. Donc, il y a vraiment un problème au niveau environnement sur la raréfaction et l'augmentation des coûts d'extraction. Pour l'uranium, on va voir qu'il y a des possibles problèmes d'augmentation des coûts d'uranium d'ici 100 ans ou 200 ans. Par contre, il y a des versions avec les réacteurs de quatrième génération où il n'y a aucun problème avec l'uranium. On peut travailler de manière presque illimitée. Alors l'uranium, c'est plus un problème de coût que de disponibilité. L'uranium est extrêmement abondant. Dans l'eau, on a 3 mg par mètre cube, ce qui fait qu'en théorie, on a 4,5 millions de tonnes d'uranium. Dans votre sol, vous avez quelques kilogrammes d'uranium dans un jardin. Il y a une teneur très faible, mais avec le volume de votre terrain, vous avez quelques kilos d'uranium. Donc le problème, c'est de l'extraire. Et donc les mines sont situées dans des endroits où les taux d'uranium sont très élevés, ce qui permet d'avoir des coûts d'extraction relativement faibles. Hein? Donc c'est un problème de coût, c'est pas un problème de disponibilité. Alors là, c'est le tableau des ressources mondiales d'uranium. On voit que les ressources dépendent du prix, justement. Et actuellement, au prix de $130 par kilo, on a environ un siècle d'uranium devant nous pour les réacteurs actuels. Donc on voit qu'on voit que ce n'est pas illimité, mais on voit qu'il n'y a pas non plus d'urgence, quoi. Il n'y a pas de gros problème à court terme. Et si on admet de payer plus cher, aussitôt les quantités disponibles augmentent. Donc, pour les réacteurs de deuxième, troisième génération, ce qu'on appelle les réacteurs de deuxième génération, c'est les réacteurs actuels qui fonctionnent en France aujourd'hui. Troisième génération, c'est l'EPR qui est en construction. Alors, pour ces réacteurs, le coût de l'uranium a peu d'incidence sur le coût du courant électrique, de 3% à 5% suivant les documents qu'on peut trouver. Et on voit qu'on a une centaine d'années de consommation possible. On notera qu'en France, on retraite le combustible également, ce qui permet d'économiser 25% d'uranium à peu près. Et puis, il faut noter aussi que le coût de l'uranium est relativement faible actuellement, ce qui fait qu'il y a très peu de recherches minières. Si les coûts augmentent, les recherches minières reprendront et on va trouver d'autres mines. C'est évident qu'on n'a pas trouvé toutes les mines d'uranium dans le monde. Et on verra tout à l'heure pour les réacteurs de quatrième génération, les réacteurs au sodium type Astrid. Là, on a des milliers d'années de production devant nous. Ce sont des réacteurs qui brûlent tout l'uranium, pas seulement l'uranium-235, mais aussi l'uranium-238. Donc, il y a un facteur 100. Et donc, ils brûlent tout l'uranium, absolument. Et ça conduit à des possibilités d'extraction à des coûts élevés dans le futur. Donc on va voir qu'on a des milliers d'années devant nous avec des produits disponibles. Donc, si on conclut sur les ressources, on voit qu'il n'y a pas tellement de problèmes avec les énergies renouvelables, qui par définition auront des ressources dans le futur. Il y a des problèmes avec les énergies fossiles. Et le nucléaire, par contre, il n'y a pas tellement de problèmes. Alors, en fonctionnement, quelles sont les pollutions au fonctionnement? Émissions de CO2, ben là on a le tableau classique, c'est le charbon qui est le plus polluant, qui émet le plus de CO2 en grammes par kilowattheure. Après on a le fioul, le gaz, le photovoltaïque, un petit peu, parce que lorsqu'on fabrique les panneaux photovoltaïques, on doit fondre du silicium, et là on produit du CO2. L'éolien, l'hydraulique et le nucléaire. Bon, on voit que les énergies renouvelables et le nucléaire se trouvent en bas, et ce sont les énergies fossiles, c'est pas une surprise, qui produisent du CO2, responsable du réchauffement climatique. Donc en bleu, c'est les émissions directes, en orange, c'est les émissions indirectes lors des fabrications. Donc très clairement, c'est l'ensemble des énergies fossiles qui est le principal responsable, à différents niveaux, des émissions de CO2. L'éolien et le photovoltaïque n'en émettent pas, pour ainsi dire, hein, même si le bilan CO2 n'est pas nul, parce qu'il y a des énergies importantes à construction. Quand vous construisiez une éolienne, c'est quand même des trucs, des monstres, hein, ça fait 100 mètres de haut, ça fait des pales énormes, et donc vous émettez du CO2. Et quand vous construisez du solaire, c'est pareil, c'est des panneaux qui... Vous émettez du CO2 pour le construire, et comme il produit peu, il y a un petit peu d'émissions de CO2. L'hydraulique et le nucléaire n'émettent pas de CO2 en fonctionnement, et leur bilan CO2 à la construction sont plus faibles que sur le photovoltaïque, par exemple, parce qu'ils ont une densité de puissance plus importante. Donc on voit que sur les émissions de CO2, bon, c'est une évidence aussi que le nucléaire est bien placé. Alors les conséquences, vous les connaissez, hein, conséquences des augmentations de CO2, c'est clairement l'origine du réchauffement climatique. Vous connaissez la diminution des glaciers et des pôles, la montée des températures et du niveau de la mer, l'acidification de la mer, on y reviendra, de la biodiversité, c'est important. Et puis les variations climatiques que vous connaissez également. Alors, la limitation de ces émissions de CO2 était le principal sujet de la COP21, même si on n'a jamais parlé de nucléaire à la COP21, mais enfin, c'est quand même le principal sujet. Et puis, il faut signaler que le captage, stockage du CO2 produit par les énergies fossiles, pour le moment, ça apparaît plus un leurre qu'une réalité. On en parle, mais ça ne se fait jamais. Ça coûterait extrêmement cher. Si vous brûlez du charbon, il faut récupérer la fumée, il faut compresser le CO2, il faut l'envoyer on ne sait trop où. À la fin, ça coûte plus cher que de rien faire. Ce n'est pas très rentable. Alors, en fonctionnement, vous émettez du CO2, mais aussi des produits chimiques. Alors, l'émission est négligeable avec les énergies renouvelables, hein, il n'y a pas d'émission. Alors, les rejets des centrales nucléaires sont négligeables en quantité. Quand vous regardez les bilans des rejets des réacteurs qui fonctionnent en France, c'est des bilans en kilos. Hein, vous le trouvez sur Internet, hein, c'est obligatoire par la loi sur la transparence. Tous les rejets des centrales nucléaires se trouvent sur Internet, et vous verrez que c'est des kilos, et c'est des produits qui n'ont aucune incidence. Et puis on peut dire aussi, il faut rappeler, il n'y a pas de fumée. Hein. C'est des vapeurs d'eau qu'on voit autour des centrales nucléaires, mais il n'y a pas de fumée, il n'y a aucun rejet gazeux, chimique. Par contre, les énergies fossiles, le charbon, lignite, le pétrole, le gaz, quand on les brûle, mais il y a des rejets chimiques et des poussières. Alors très peu avec le gaz, puisque le gaz, c'est surtout des rejets de CO2. Mais par contre, avec le charbon et la lignite, il y a des rejets extrêmement importants. Alors, un exemple d'émissions chimiques de centrales à charbon. C'est une puissance de 600 MW. On voit qu'on rejette de l'arsenic, du plomb, du mercure, ainsi de suite. Des millions de tonnes de CO2, des 720 tonnes de CO, du dioxyde de soufre, qui va faire des pluies acides, les fameuses pluies acides qui font des dégâts sur les forêts. Les oxydes d'azote, ben, ceux dont on parle dans les villes, hein, les problèmes de donne d'oxyde d'azote, et les particules, les fameuses particules. Il faut savoir que quand même les pollutions qu'on a dans les villes sont en grande partie liées au fait qu'on utilise des énergies fossiles. Par exemple, dans les villes, il y a beaucoup de chauffage des grands immeubles qui sont faits avec du fioul et qui émettent des particules, qui émettent du dioxyde d'azote, ainsi de suite. Donc les énergies fossiles sont extrêmement responsables pour les émissions chimiques. Et même pour les émissions radioactives, c'est assez amusant. Dans l'industrie nucléaire, on utilise des produits. Les produits radioactifs sont gérés d'un cycle qui est interne. On met du combustible, on le sort, on l'amène à la Hague, on le retraite et on renvoie le combustible. Tout ça reste dans le petit domaine du nucléaire. Il n'y a pas d'émission vers l'extérieur. C'est la même chose même quand on démantèle un réacteur. Tout ce qui est démantelé, coupé, envoyé à l'endroit, stocké dans des stockages particuliers. Et donc il n'y a pas de dilution vers l'extérieur. La seule chose qui sort en émission radioactive, c'est le tritium. Le tritium, c'est un gaz très léger. Et quand il est produit dans les réacteurs, il y a environ 3 grammes par an qui est produit par les parcs français et qui est émis. C'est le seul produit qui est émis actuellement par nos 58 réacteurs qui font quand même 85% du courant électrique. Par contre, dans les centrales à charbon, on a l'uranium, le thorium, le potassium et les descendants qui sont présents dans le charbon. Là, quand on le brûle, bah, ça fait des poussières, ça part. Et les doses collectives qu'ont des travailleurs dans les centrales à charbon sont supérieures aux doses des gens qui travaillent dans les réacteurs nucléaires. Et les fumées, les cendres, contiennent plusieurs centaines de becquerels par kilo d'uranium, potassium, thorium. Alors, à chaque fois que je fais ce genre d'affirmation, je vous donne les références correspondantes hein, qui seront à la fin du chapitre. Donc, conclusion sur les émissions en fonctionnement des énergies. Pour le CO2, pour les produits chimiques et les poussières, c'est les énergies fossiles qui sont les principales responsables des émissions. En particulier le charbon, la lignite. Et le gaz est moins polluant. Le recours à l'énergie nucléaire et aux renouvelables permet donc considérablement de réduire les émissions en fonctionnement et de réduire la pollution associée. On estime que depuis 1971, l'énergie nucléaire a permis d'éviter l'équivalent de 2 années d'émissions de CO2 sur la planète. Alors, les déchets maintenant. Les fameux déchets nucléaires. Pour produire 1 gigawatt durant une année, un réacteur nucléaire va produire 100 mètres cubes de déchets vie courte, 5 mètres cubes de déchets vie longue, moyenne activité, et 2,5 mètres cubes de verre à forte activité, longue durée de vie. C'est les fameux combustibles qui sont vitrifiés. S'il n'y avait pas de retraitement, ça ferait 40 mètres cubes. Bon. Vous voyez les volumes pour 1 gigawatt. Hein. Au charbon, pour un réacteur au charbon qui fait la même production, vous avez 350 000 mètres cubes de cendres, 6 000 tonnes de poussière, 8 millions de tonnes de CO2. On voit bien que c'est impossible de stocker ça. Donc tout ça, c'est rejeté dans la nature, c'est rejeté dans l'air. Et vous avez des tonnes de SO2, de NO, de métaux lourds divers, du mercure, du cadmium. Alors, c'est cette différence de volume qui fait que les réacteurs fossiles envoient tout dans la nature et travaillent sur un principe de dilution. Nous, comme on a une quantité très faible, on est capable de stocker nos déchets. Donc un ordre de grandeur des déchets, par tête et par année en France. On produit 2 tonnes chacun de déchets inertes et ménagers. On produit 800 kg de déchets industriels, dont 100 kg de haut niveau de toxicité. Et c'est une toxicité qui est infinie dans le temps. Hein, quand c'est de l'arsenic, c'est de l'arsenic. Dans 1 million d'années, c'est toujours de l'arsenic. Hein. Quand c'est du mercure, c'est du mercure. Dans 1 million d'années, c'est toujours du mercure. Déchets nucléaires, 2 kg. Dont 10 grammes seulement de haute activité. Si vous vivez jusqu'à 80 ans, vous allez produire dans votre vie, si vous consommez du courant électrique à 85% nucléaire, vous allez faire 800 grammes de déchets, ce qui fait qu'en volume, comme c'est très lourd, c'est un volume comme ça. Toute votre vie, vous aurez produit qu'une petite quantité de déchets, grande comme mon poing. Donc c'est vraiment la différence de volume qui est frappante. Donc il y a 2 types de déchets, hein. Il y a le déchet du combustible lui-même, donc le combustible, ça faut, on le vitrifie, et on le concentre, et 99% de la radioactivité se trouve dans ce combustible. La grande majorité des autres déchets obtenus, c'est 99% des déchets, ils ont moins d'un pour cent de la radioactivité. C'est des déchets de contamination, des déchets d'activation. Par exemple, sur une centrale, vous travaillez, vous avez... C'est une bonne idée, ça. Dans la centrale, vous travaillez, vous mettez des gants pour travailler, après les gants, vous mettez ça dans un fût, et ça devient un déchet radioactif. Et ça, c'est 99% des déchets, en fait. Faible activité. Merci. Alors pour les déchets, l'industrie nucléaire, c'est la seule qui gère ses déchets d'un cycle fermé, avec stockage des déchets et sans dilution vers l'extérieur. Ceci est valable aussi pour le démantèlement. Ceci n'est possible qu'à cause des faibles quantités produites par rapport à l'énergie énorme qu'on produit, des très faibles quantités de déchets. Et il ne faut pas oublier que ces déchets ont une décroissance de radioactivité. Le deuxième point, c'est que les énergies fossiles produisent par contre des quantités énormes. Des millions de tonnes. Et elles gèrent ça sur le principe de la dilution. Ils remettent tout dans la nature. Donc gaz, fumée, cendres, produits chimiques divers. Et beaucoup de conséquences qu'on va voir ensuite sur la santé, la biodiversité ou le réchauffement climatique. C'est vraiment une pollution globale de la planète. Les ENR n'ont pas de déchets en fonctionnement, ça c'est très bien. Par contre, il y a des quantités importantes de déchets en fin de vie qui ne sont pas traités. Les panneaux solaires, les éoliennes en fin de vie, personne ne sait ce qu'on en fera. Mais enfin, c'est beaucoup moins grave que les énergies fossiles. Le pas suivant, c'est la surface. Parce qu'on veut produire de l'énergie, mais il faut voir quelle surface il faut occuper pour produire cette énergie. Et quelle surface on pollue, finalement. Alors là, j'ai mis pour différentes énergies les surfaces nécessaires pour avoir 1 gigawatt électrique. On voit que le nucléaire, il faut moins d'1 km². Et puis la biomasse, il faut 2500 km², c'est normal, il faut plein de champs qui produisent de la biomasse. Le solaire, il faut environ 150 km² et l'éolien, 770 km². Donc, quand vous faites une centrale, si vous voulez remplacer une centrale, par exemple, par de l'éolien, ça fait des surfaces énormes qu'il faut remplir avec des éoliennes. Et c'est pas forcément agréable au niveau de la visibilité et pour les gens qui habitent dans la région. Alors, la faible densité de puissance des énergies renouvelables conduit à des besoins de grandes surfaces qui sont de moins en moins disponibles, du moins en Europe. Il est évident que dans les pays qui ont des grands déserts, ils peuvent mettre des éoliennes ou du solaire sans trop être embêtés. Mais en Europe, c'est difficile. En France, on a moins de 3% de production éolienne et on a déjà des difficultés d'implantation. On a des pollutions visuelles et sonores. Alors la santé. L'énergie joue sur la santé. Là, on a une photo de Pékin, une photo de la Chine. Donc l'utilisation d'énergie fossile conduit à l'émission de grandes quantités de polluants divers. Des métaux lourds, on l'a vu tout à l'heure, les métaux lourds produits par le charbon. Et l'accumulation dans l'air de ces produits chimiques conduit à des produits de santé pour les gens qui y habitent. Asthme, maladie cardiovasculaire, problèmes pulmonaires. L'OMS estime que la pollution de l'air entraîne 7 millions de décès par an. Il y a un rapport de 2013, je vous donnerai une référence, financé par la Commission européenne, qui estime que chaque année en Europe, la pollution spécifique est à l'origine de 18 000 décès prématurés, de 8 500 cas de bronchite chronique et de la perte de 4 millions de jours de travail. En termes accidentels, l'addition est lourde aussi pour les énergies fossiles. En France, on a eu 40 000 morts de 1910 à 1945 dans les mines. Et maintenant, des milliers de morts continuent à être décomptées chaque année dans le monde, particulièrement en Chine, mais aussi en Turquie. Enfin, on entend souvent des émissions, un grand nombre de morts dans les mines. Donc il y a deux facteurs, l'aspect mine et surtout l'aspect pollution de l'air et maladies correspondantes. Alors les gens qui ont fait des calculs, des médecins, donc on trouve, si on prend le tableau de gauche, on voit en ordonnée, on a les morts par pollution de l'air et par accident, par terawatt-heure, et en bas, on a les émissions de CO2 équivalentes. Donc on voit qu'avec le charbon et la lignite, chaque terawatt-heure conduit à 30 ou 40 morts. Et on voit que si on descend, le gaz, il y a beaucoup moins de problèmes parce qu'on n'émet pas de poussière avec le gaz, pas de produits chimiques. Et le nucléaire, c'est celui qui est tout en bas, qui est le meilleur point avec la biomasse. Et pareil pour les cas de sérieuses maladies, enfin de maladies sérieuses conduisant à des handicaps, ben c'est le charbon et la lignite qui produisent 300 personnes invalidées par térawattheure, alors que le nucléaire est à zéro. Et ça prend en compte les accidents nucléaires aussi. Hein. Ça prend en compte Tchernobyl et puis Fukushima. Fukushima, il y a eu zéro mort, hein. C'est pas compliqué de le prendre en compte. Et Tchernobyl, il y a eu des débats un peu finir, mais l'OMS a trouvé un nombre de morts sur environ 200 morts. Donc c'est pris en compte dans le bilan cumulé accidents et maladies. Donc on voit que le nucléaire, quand même, est en bonne position. C'est quand même une évidence que nos problèmes de pollution d'air ne sont pas liés au nucléaire, quoi. Donc au niveau santé, c'est à la limite le charbon qui sont les pires. Environ 30 morts et 300 maladies sérieuses par terawatt-heure produit. Ces valeurs incluent les accidents. Le pétrole un peu moins, gaz biomasse 2 et 30, et nucléaire et ENR, énergie renouvelable, très faible. Alors, il y a un article du Lancet, dont je donne la référence, qui développe tout ça, qui explique tous les chiffres que je viens de donner. Et ce n'est pas des gens pro-nucléaire, c'est des médecins qui font ça. La biodiversité. Alors, les principaux paramètres qui concernent la biodiversité, il y a la réduction de la surface disponible pour les animaux et les oiseaux. On revient à ce point de surface. Si vous faites des barrages, si vous faites des champs d'éoliennes, ainsi de suite, ben, les animaux, ça ne peut plus trop aller. Les émissions de produits chimiques, ça c'est très nocif pour nous, pour notre santé, mais également pour la santé des animaux. Les variations d'acidité et température de l'eau de mer pour espèces marines, ça, on va insister là-dessus, c'est un point très important. C'est-à-dire que le CO2 qui se dissout dans la mer, on a des conséquences très importantes. Et puis un petit point mineur, c'est les agressions physiques par les éoliennes pour les oiseaux. Je reviens sur la biodiversité marine, c'est très important parce qu'un tiers du CO2 produit par les énergies fossiles est redissous dans la mer par les pluies et les vagues. L'acidité de la mer a commencé à augmenter, le pH sur quelle mesure il a changé. Les conséquences sont importantes pour les coraux à cause du réchauffement et de l'acidification. En 30 ans, la moitié des récifs coralliens a disparu et des centaines de milliers d'espèces. En Australie, sur la grande barrière de corail, ils se plaignent aussi que ça commence à disparaître. Les conséquences sont fortes aussi pour le plancton. Le plancton a une carapace calcaire qui n'aime pas l'acidification. Et ça entraîne des perturbations dans toute la chaîne alimentaire dans la mer. Et on a une expérience. À la fin du Permien, il y a 250 millions d'années, il y a eu d'importantes émissions de CO2 qui ont été liées à une activité volcanique. Et on a trouvé que les océans avaient été acidifiés. Et environ 95% des espèces avaient disparu. Donc on sait l'influence que ça a. Alors, il y a un bouquin qui est sorti, « Comment l'homme détruit la vie », qui explique tout ça, la sixième extinction. Je vous encourage à le lire. Puis un petit point quand même, c'est les éoliennes sont ennemies des oiseaux. Hein. En particulier les chauves-souris. Je sais pas, il y a une problème de fréquence. La nuit, elle se dirige avec une certaine fréquence. Et bon, ben, on a beaucoup d'oiseaux qui sont tués. Au pied des éoliennes, on trouve toujours plein d'oiseaux qui sont des... Par contre, les réacteurs nucléaires sont en bonne position pour la biodiversité. Parce qu'on n'a pas de rejet chimique, donc les animaux qui sont autour sont contents. On a une surface au sol accaparée qui est faible. Avec 1 km², on produit des milliers de mégawatts. On n'a pas de bruit, pas de chasseurs par définition. Moi, quand je dirigeais le réacteur Phoenix, j'avais 2 animaux protégés qui avaient trouvé refuge sur le réacteur. L'alouette Lulu et le lézard ocellé. Alors, j'étais bien embêté avec ça, parce que comme ils avaient trouvé refuge sur le réacteur, il fallait prendre des précautions, et ainsi de suite. On a plein de mesures à prendre. Parce qu'ils étaient bien contents d'habiter dans la cheminée de Phoenix. Bon, enfin, c'est comme ça. Donc, sa biodiversité, les réacteurs nucléaires sont en bonne position par rapport aux autres sources d'énergie. Là aussi, il y a un article qui explique tout ça, un article australien. Alors, les ROY, c'est quoi les ROY? Les ROY, c'est le retour, l'énergie qui revient par rapport à l'énergie investie. C'est le rapport entre l'énergie utilisable produite par l'installation durant sa durée de fonctionnement et l'énergie qui était nécessaire pour la construction. Donc plus les ROY est grand et mieux c'est. Quand vous construisez un élément qui va produire de l'énergie, vous dépensez de l'énergie, après vous le mettez en route, il en produit. Il faut qu'il en produise quand même beaucoup plus que ce qui était nécessaire pour le construire. Alors si on compare les ROY, ben, le nucléaire est complètement à droite avec l'hydroélectrique. Après on a les énergies fossiles et puis après on a les énergies éoliennes. Quand vous construisez par exemple des panneaux solaires pour mettre en Allemagne, là c'est complètement à gauche, ben, le rendement n'est pas très bon quoi, parce que vous dépensez beaucoup d'énergie pour fabriquer le panneau solaire. Il faut entre 18 mois et 2 ans pour rendre cette énergie. Et les panneaux ont seulement une durée de 20 ans. Donc le rendement n'est pas très bon. Alors qu'un réacteur, les chiffres sont suivants. Un réacteur, au bout de 2 à 4 mois, vous avez récupéré toute la puissance qui était nécessaire pour le construire. On n'a pas l'impression, parce que quand on voit le béton et la ferraille qu'on met dans un réacteur, on se dit qu'il faut du temps pour récupérer l'énergie qui a été nécessaire à faire ce béton ou cette ferraille. Mais en fait, il faut quelques mois. Et après, le réacteur a une durée de vie de 60 ans. Donc il a un bon retour d'énergie par rapport à l'énergie investie. Et le pire, c'est photovoltaïque actuellement, parce que la durée de vie est relativement courte, 20 ans, et il faut presque 2 ans pour récupérer déjà l'énergie qu'on a investie au départ. Voilà, donc le nucléaire est bon également au niveau de l'ROY, du retour. Alors on voit que donc, au niveau environnemental, le nucléaire est une source d'énergie qui a de sérieux atouts. Donc on n'a pas de rejet de fumée ou de CO2, c'est évident. On est même meilleur que photovoltaïque à ce niveau-là. On a des rejets chimiques négligeables. Pas de pollution en fonctionnement, donc ça permet d'éviter le dérèglement climatique. Ensuite, les faibles quantités de déchets produites permettent d'avoir un cycle fermé, sans dilution vers l'extérieur. On est les seuls qui ne diluent pas nos déchets vers l'extérieur, qui les gardons dans notre circuit. Les autres sources d'énergie, ils mettent tout dans les rivières, dans l'air, et puis débrouillez-vous. On a une faible surface occupée, donc il n'y a pas d'émissions chimiques, un must pour la biodiversité. On sauvegarde les paysages en faisant ça. Alors que des kilomètres. J'habite en Allemagne, des kilomètres carrés d'éoliennes, pas terrible. Hein. On a le meilleur résultat avec les énergies renouvelables en termes de morts ou de malades par térawattheure produit, en incluant les accidents et conséquences de la pollution. C'est le nucléaire qui a le meilleur résultat. On a le meilleur ROI, retour sur l'énergie investie, et on n'a pas de problème de disponibilité de ressources pour le futur. On peut travailler de manière presque illimitée avec le nucléaire dans le futur. Alors ça, c'est des références que je vous ai mis. Toutes les valeurs que j'ai données, tout sont tirées de ces références, et qui sont des références de trucs de médecins, des trucs... La première référence, c'est un rapport de la Commission européenne. La deuxième, c'est Elsevier, c'est l'analyse des ROI sur des énergies, c'est un truc scientifique. Après, c'est les médecins, troisième, le Lancet, la médecine et puis la génération d'électricité. Le livre rouge, c'est l'AIEA, sur les données de disponibilité d'uranium. Les bouquins sur radioprotection, c'est les risques avec le charbon au niveau nucléaire. Et puis voilà, enfin, c'est des bouquins que vous pouvez trouver. Le dernier bouquin, c'est « Comment l'homme détruit la vie », c'est un livre qui se lit très bien, c'est un livre américain, qui était traduit en français en début d'année, et qui explique les problèmes dans la mer liés à la dissolution du CO2 et l'acidification de la mer. Voilà, j'ai fini la première partie. Est-ce qu'il y a des questions particulières ? Elle décroît, oui.
Et donc ça veut dire qu'en fait, on arrive à un moment où il n'y a plus de place pour stocker.
Alors, ce qui nous sauve, c'est que les volumes sont faibles. Donc, l'endroit de stockage pour les déchets de faible et moyenne activité, qui actuellement sont en train de se remplir, et il y en a un qui va être rempli, je pense, dans 10 ans. Donc, ou bien ils vont augmenter le volume qu'on peut y mettre, ou bien ils vont en ouvrir un autre. Mais c'est des produits qui, au bout de 30-40 ans, ont complètement décru au niveau radioactivité. Donc, c'est des zones qu'on va pouvoir, à un certain nombre d'années, on va pouvoir les rendre à la vie civile, je dirais. On pourrait y planter des arbres dessus. Et par contre, les déchets de combustible, ce qu'on a vu, eux, ils ont des quantités extrêmement faibles, mais 99% de la radioactivité sont dans ces déchets. Et ces déchets, c'est eux qui doivent aller à CIGEO, le truc dont on a parlé dans les journaux récemment. Et la solution pour ces déchets-là, c'est CIGEO.
Donc ça, c'est les grappes de commande
C'est les combustibles qui sont dans le cœur du réacteur. C'est l'uranium, quoi. Les barres de commande sont... Il y a du carbone de bord dedans, mais il n'y a pas de combustible dans les barres de commande. C'est elle qui contrôle la réactivité du cœur.
On parle surtout des produits de fission.
D'accord.
Quand le combustible qui est en fin de vie, il est retraité à la Hague, on sépare tout ce qui est récupérable, tout ce qui est récupéré et recyclé en partie. Et après, il y a des produits de les produits de fission qui sont des isotopes là, qui ont forte activité à vie longue et qui représentent un volume extrêmement, extrêmement faible. Alors c'est ça, effectivement, quand on dit vie longue, c'est des milliers d'années. Donc c'est ça effectivement qu'on va mettre en stockage profond, à 500 mètres de fond, dans les zones d'argile stabilisées. C'est ça le projet dur dont on parle, dans le CIGEO, dont on parle de temps en temps.
Et on a un regard possible sur ces stockages, voir s'il n'y a pas de fuite de...
Effectivement, la réglementation française, elle impose le critère de réversibilité. Ça veut dire qu'en fait, il faut qu'on soit en capacité, d'ici à une centaine d'années, d'aller les revoir, d'aller éventuellement les retirer pour faire des contrôles ou faire autre chose avec. L'idée aussi, parce que c'est ça qu'il y avait aussi derrière, c'est un, améliorer la surveillance parce qu'on est capable d'aller les inspecter, et deux, c'est d'avoir la capacité aussi, de laisser la capacité de les enlever si jamais la science, les problèmes de la science faisaient qu'on arrivait par prospectation ou d'autres dispositions à traiter ces déchets à vie longue et très forte activité.
D'accord.
C'est ça, le principe de la réversibilité, il était fait pour ces deux raisons.
Le CIGEO, c'est sous 500 mètres d'argile. Cette argile est très sèche. Par définition, l'argile, il n'y a pas de circulation d'eau dedans, puisque si de l'eau arrive, elle gonfle et ça bloque les circulations, c'est étanche. Il y a 500 mètres d'argile et ça fait à peu près un million d'années qu'elle n'a pas bougé de place, quoi. Donc c'est quelque chose de très stable, quoi. Et puis les produits décroissent en radioactivité. De toute façon, au bout de 100 000 ans, il n'y a plus grand-chose. On verra les courbes tout à l'heure. On verra, si on fait rien, si on prend un assemblage de réacteurs, qu'on le met là-dedans, au bout de 100 000 ans, sa radioactivité est presque tombée. Alors 100 000 ans, on ne sera plus là.
Disons que sur une échelle de 100 000 ans, on peut douter de la, de la, la possibilité de regard
sur... Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on retraite, pour diminuer ce temps. Et on va voir les courbes tout à l'heure de retraitement, ce qu'elles apportent au niveau de... Et puis le point important, c'est quand même que les autres énergies, elles ne font pas tout ça. Les autres énergies, elles mettent tout dans la nature et puis elles polluent la nature de manière...
Justement, par rapport à ça, j'ai une seconde question. Vous avez parlé de pas mal d'autres énergies, vous n'avez pas parlé des énergies à base avec l'hydrogène.
Ah.
C'est
volontaire, c'est... Non. Parce que c'est pas... Enfin, c'est pas...
C'est un vecteur.
C'est un mode d'utilisation d'énergie. Hein. Si on a du courant électrique, on peut faire une électrolyse, on peut obtenir de l'hydrogène, et après on peut utiliser l'hydrogène comme un comburant. Hein. On peut le brûler avec de l'eau, avec de l'oxygène, et c'est un très bon combustible puisqu'il produit que de l'eau à l'arrivée. Hein. Donc, mais c'est un vecteur, c'est pas de l'énergie, c'est pas énergie à la base. C'est l'utilisation, par exemple, de l'énergie électrique produite par les éoliennes, qui sont très discontinues. On peut imaginer d'utiliser cette énergie pour produire l'hydrogène et pour stocker l'hydrogène.
D'accord, donc on n'a pas encore vraiment de moyen d'extraire, d'exploiter l'hydrogène naturellement.
Il n'y en a pas. Il y en a beaucoup dans l'eau, si tu veux. Mais naturellement, il n'y a pas d'hydrogène. Donc il faut du courant électrique pour tirer l'hydrogène de l'eau. Et le courant électrique, il faut le faire soit avec du charbon, soit avec enfin quelque chose, quoi.
D'accord. Il y a beaucoup d'interrogations sur l'hydrogène, c'est dans la question de la mobilité, notamment, parce que c'est effectivement des moyens qui permettent de récupérer l'électricité, de la transformer et ensuite de la réutiliser. Mais de toute façon, à l'origine, pour utiliser l'hydrogène, il faut de toute façon une opération d'électrolyse qui se fait à partir de l'électricité. On est bien sur une deuxième transformation. Ce n'est pas une énergie primaire, parce que c'est une deuxième transformation. Mais c'est très prometteur quand même.
Oui, vous avez écrit sur un des transparents que finalement le nucléaire et les énergies renouvelables n'émettaient pas de CO2 et
ou très peu, enfin oui.
Contribuaient à diminuer les émissions de CO2. Mmh. Quand on regarde de plus près en France, du fait que les énergies renouvelables, en particulier éolien et solaire, ont une priorité sur le réseau, finalement elles se substituent à ce qui est produit par ailleurs, et en particulier celle du nucléaire. Donc en fait, toutes celles qui sont construites en France ne servent pas du tout à diminuer les émissions de CO2. Mmh. Et même en Allemagne. Finalement, quand on regarde aussi ce qui est fait, pour l'instant, les émissions, les ENR contribuent à compenser la perte de production liée aux centrales nucléaires qui ont été fermées, mais pas du tout à diminuer les émissions de CO2, puisqu'on voit bien d'ailleurs que l'Allemagne continue à augmenter ses émissions de CO2 ces quelques années. Donc, je suis bien sûr d'accord avec vous, mais avec ce petit...
Mais on regardait strictement les résultats, enfin énergie par énergie, sur les différents paramètres, quelles sont les énergies qui ont des points forts et points faibles. Après, si on rentre sur les problèmes d'intermittence, ainsi de suite, on rentre sur d'autres problèmes sur lesquels on pourrait beaucoup, beaucoup discuter. Mais je crois quand même qu'il y a une évidence qu'on voit. Enfin, moi, je suis né dans les corons miniers dans le nord, où on avait encore du charbon à l'époque. Et maintenant, j'habite près de réacteurs nucléaires. C'est une évidence qu'en termes de pollution et en termes de paysage, en termes de pollution, on a fait des progrès énormes en passant au nucléaire. Ça me paraît une évidence, quoi. Mais c'est pas assez rappelé. Enfin, les gens sont tellement convaincus, finalement, qu'ils ne se rendent pas compte.
Oui, on peut même se poser la question pour, finalement, les panneaux photovoltaïques qui, actuellement, sont fabriqués principalement en Chine et installés parfois en France. Finalement, il faut quand même, ils émettent du CO2, comme vous l'avez dit, pour la construction, et on va les mettre en France en remplacement de productions qui sont non carbonées. Mmh. En fait, ce qu'il faudrait faire dans l'idéal, c'est fabriquer les panneaux en France et les installer en Chine. Ça, c'est un autre problème.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cet aspect environnemental? Enfin, est-ce que c'est... Parce que Moi, j'insiste beaucoup sur les déchets parce que le fait qu'on a un cycle fermé de déchets, c'est quand même extrêmement avantageux en termes environnementaux, quoi. On est la seule énergie qui ne met pas ses déchets dehors, quoi. Et c'est quand même important.
Monsieur, vous disiez que donc, ça concernait actuellement les combustibles, en fait, les chiffres que vous avez présentés, et principalement les rejets qui ont lieu après la combustion de l'uranium,
oui.
Est-ce que c'est justement les gardes de commande dont je parlais précédemment, est-ce que c'est leur émission de CO2 lors de leur fabrication est prise en compte dans ces documents?
Oui, c'est pris en compte, oui. C'est important de prendre en compte parce que c'est...
Oui, parce que justement le rendement, enfin, le rapport en termes d'émission de CO2 sur la fabrication des gardes de commande est quand même relativement mauvais. Enfin, moi j'avais vu que voilà, pour en gros... J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais il me semble que on émet plus de CO2 que de carbure de bord. Pour un gramme de carbure de bord, on émet plus d'un gramme de CO2.
Vos chiffres, enfin, vous connaissez, donc je pense que c'est bon. Après, pour mettre ça à l'échelle d'une centrale nucléaire complète, et regardez ça avec les tonnages. Prenez par exemple, j'ai les chiffres de Crémanville en tête, c'est 550 000 tonnes de béton. Donc quand vous voyez 550 000 tonnes de béton, derrière, bah, tout ça c'est du ciment. Le ciment, c'est de la combustion, parce qu'on fait en traitant du calcaire, donc là, ça vous fait des tonnes de CO2. Donc mais, quand on regarde, et la ferraille, toute la ferraille, parce que c'est du béton qui est armé, hein, donc avec toute la ferraille, c'est aussi de la combustion. Donc c'est pour ça que ce que vous citez dans les graphes de carburant de bord, par rapport à l'ensemble, c'est peanuts. C'est quelques kilos par rapport à un ensemble qui est beaucoup plus grand. Et bien sûr, dans l'analyse du cycle de vie, on est bien sur le cycle de vie complet, où on est sur de la fabrication jusqu'à la fin d'exploitation et la déconstruction. Donc on a bien effectivement ça dans l'analyse carbone qu'on fait. Et de l'ensemble des composants, quel qu'il soit. Donc les grappes, ils sont complètement énormes, alors que vous êtes fait, c'est vraiment microscopique par rapport aux 500 000 tonnes de grappes.
C'est ce qu'on appelle dans le tableau les émissions indirectes. L'émission indirecte, c'est le CO2 qu'on produit quand on construit l'installation. Le nucléaire est très peu parce qu'il produit beaucoup pendant longtemps. C'est pour ça que le rapport est très faible. Et le carbone de bord, il se trouve au milieu de ce petit truc-là. Mais largement infime par rapport au béton et la ferraille qu'on utilise. Bon, bah, je vais passer à la suivante. Je suis dans les temps ou pas? 3h20, non, je ne suis pas du tout dans les temps. c'est une catastrophe. En deuxième partie, je vais un peu accélérer. Alors, les réacteurs, on appelle les réacteurs de quatrième génération. C'est la première génération, c'est les petits réacteurs qu'on a fait au début, qu'on a démantelés. Les réacteurs de deuxième génération, ben c'est sur les réacteurs en opération aujourd'hui, comme les 58 réacteurs qui sont aujourd'hui en France en opération. Puis maintenant, on construit des réacteurs de troisième génération. C'est l'EPR de Flamanville, par exemple. Et puis ensuite, on a, pour le futur, les siècles d'après, c'est les réacteurs de quatrième génération. Donc ça, c'est notre langage habituel. Alors, dans quatrième génération, pour les réacteurs du futur, dans un siècle, je ne sais pas quoi, il y a 6 types de réacteurs qui sont étudiés. On ne peut pas vraiment rentrer dans le détail de tous ces réacteurs, mais disons qu'il y a les réacteurs à sodium dont on va revenir dessus. Ils sont extrêmement avancés et ils fonctionnent et on sait les faire marcher. C'est Phoenix, c'est Super Phoenix. Après, il y a les réacteurs au plomb. Ça, c'est des réacteurs expérimentaux. Ça, il n'y en a aucun qui tourne actuellement dans le monde. C'est plutôt des projets, des études. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. On sait même pas si ça va émerger un jour. Les réacteurs rapides au gaz, il y a des problèmes de sûreté énormes, on ne sait pas si on en fera un jour. Les réacteurs à haute température, qui sont aussi au gaz, ceux-là, ils fonctionnent. Il y en a qui ont fonctionné dans les années 60-70, et c'était arrêté pour des raisons économiques, et on ne sait pas si ça redémarrera un jour. Actuellement, il y en a qui se construisent en Chine, mais on ne sait pas si c'est pour faire un test ou pour avoir une filière qui tourne ensuite. Après, on a des réacteurs à eau supercritique, très compliqués, c'est les Canadiens qui travaillent là-dessus, et des réacteurs à sel fondu, qui eux sont très exotiques. C'est des réacteurs où le cœur est dissous dans le sel, et le sel et le cœur circulent ensemble. Enfin, c'est un réacteur extrêmement compliqué à gérer. Donc, dans tous ces réacteurs, les seuls qui tournent et qui existent aujourd'hui, c'est les réacteurs à sodium. Alors, il y a une analyse des 6 concepts de réacteurs a été faite par l'IRSN, l'Institut de recherche de la sûreté nucléaire, en 2014. Et ils sont arrivés à la même conclusion dans leur rapport, en disant que dans le siècle à venir, les seuls réacteurs qu'on pouvait faire de manière industrielle, c'était les réacteurs rapides à sodium. Donc, c'est bien ce réacteur rapide sodium qui est le réacteur du futur pour le moment, pour la quatrième génération. Je résume un peu vite. Alors, c'est un cas particulier parce que le premier réacteur nucléaire qui a produit du courant électrique en 1951, c'était déjà un réacteur rapide à sodium. Il était refroidi au NAC, en fait, un mélange de sodium et de potassium. C'est un eutectique qui permet d'être liquide à température ambiante, alors que le sodium n'est liquide qu'à 100 degrés. Donc, les RNR sodium sont déjà passés par les stades première et deuxième génération, parce qu'on a fait toutes les séries de réacteurs depuis. Il y a eu 19 réacteurs construits dans le monde. Et actuellement, des réacteurs de sodium sont en cours de démarrage. Il y a 800 MW électriques qui est en cours de démarrage en Russie, BN-800. Et en Inde, il y a PFBR, qui est un réacteur indien. Alors, ces réacteurs ont été conçus dans les années 90. Par certains côtés, c'est des réacteurs de troisième génération. Mais ils n'ont pas été conçus avant Fukushima. Donc maintenant, sur les réacteurs quatrième génération, on rajoute des critères de sûreté liés à Fukushima. Ça, c'est un réacteur sodium qui est 800 MW en sodium, qui a été couplé au réseau en décembre 2015, donc c'est récent. Et actuellement, ils sont à 50% de la puissance nominale. Et ça, c'est PFBR, un réacteur sodium en Inde, 500 MW électriques. Les photos, ça, c'est la construction, ça date de 2011. Mais ce réacteur, actuellement, ils sont en train de remplir en sodium et devrait démarrer en 2016. Donc, pour dire que c'est des réacteurs qui fonctionnent dans le monde. On a des bilans de projets réacteurs sodium dans le monde. On a la France Astrid, on va y venir. La Russie, il y a un projet de BN 1200 MW. Après le 600 MW, le 800 MW, il y a un projet de BN 1200 MW. Ça serait même puissance que Superphénix. En Chine, il y a un petit réacteur sodium en opération de 20 MW. Mais ils ont un projet de 600 MW à venir. Au Japon, ils ont un projet JSFR, mais ils travaillent aussi avec Astrid. Ils travaillent avec nous maintenant. En Corée du Sud, il y a un projet PGSFR de 150 MW électrique. Et en Inde, on vient de voir PFBR, 500 MW électrique, qui va démarrer. Et une série de 4 réacteurs prévus derrière. Donc quand on parle des réacteurs sodium, on ne parle pas d'un rêve, on parle d'une réalité, de choses qui existent. En France, on a beaucoup travaillé sur les réacteurs sodium. On a fait un réacteur de recherche qui s'appelait Rhapsody, qui était sur le site de Cadarache. Après, on a fait les réacteurs Phoenix, qui était à Marcoule, au bord du Rhône, à 250 MW électrique. Après, on a fait Superphénix, qui était à 1200 MW électrique. Et après, tout ça a été arrêté pour des raisons politiques. On a eu Astrid, qui est en train de redémarrer, et qui a un prototype, on va en parler tout à l'heure, mais qui est une espèce de prototype avant le réacteur commercial. Donc, on a une grande expérience des réacteurs sodium en France. Alors, ces réacteurs, quel avantage ils ont ? Parce que quel avantage qu'on a à travailler sur ces réacteurs plutôt que de garder des réacteurs à eau actuels qui finalement marchent très bien ? Ben, il y a 4 avantages qui sont principalement environnementaux. Le premier, c'est des ressources quasi illimitées avec des produits déjà disponibles. On peut tourner pendant des milliers et des milliers d'années avec des produits déjà disponibles. Deuxième point, c'est optimiser le cycle du combustible en diminuant encore les quantités de déchets et leur toxicité. Le troisième point, en cas d'accident, c'est conséquences environnementales. C'est des réacteurs quatrième génération, c'est-à-dire que même en cas d'accident, il ne se passe rien à l'extérieur de la centrale. Et minimiser l'impact environnemental au fonctionnement.
Il faut ajouter le meilleur rendement thermodynamique.
Oui, c'est un point. C'est un point. C'est vrai. Mais c'est... oui, c'est moins net qu'avant. Mais c'est un avantage environnemental, oui. C'est minimisation de l'impact environnemental au fonctionnement. On jette moins d'eau chaude dans la rivière. Des ressources illimitées. Alors, il faut quand même expliquer, dans un rapide sodium, au départ, dans le combustible, on a 20% de plutonium et 80% d'uranium naturel ou appauvri. Hein? Après combustion et fonctionnement, on a plus de plutonium qu'au départ. Donc, si on retraite, parce que le plutonium brûlé va être compensé par celui créé par la capture des neutrons dans l'uranium-238. Donc, si on dispose des couvertures en uranium-238 autour du cœur, quand on retraite l'ensemble, on arrive à avoir plus de plutonium qu'au départ. Donc il suffit de reprendre ce plutonium, de mettre de l'uranium appauvri, et hop, on a un nouveau combustible, on peut redémarrer le cycle. Donc le SFR ne brûle que de l'uranium appauvri. Et le plutonium produit en excès peut être utilisé pour charger des nouveaux réacteurs. Actuellement, on a à peu près 200 tonnes de PU disponibles en France. On en produit 10 tonnes par an avec le parc de réacteurs à eau existant. On a 300 000 tonnes d'uranium appauvri disponibles qui sont stockées. Et on en produit tous les ans 7 000 tonnes. Et si on avait un parc de réacteurs rapides de 100 gigawatts, c'est le parc actuel, ça, 100 gigawatts, hein, on consommerait moins de 100 tonnes d'uranium appauvri par an. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein, c'est 300 000 tonnes, 100 tonnes par an. On a des milliers d'années devant nous de production avec ce système de réacteurs à sodium. Des milliers de production, des milliers d'années de production devant nous, sans besoin de mines d'uranium et sans besoin d'enrichissement. Uniquement en utilisant des produits disponibles et stockés. C'est quand même pas rien. Et l'optimisation du cycle du combustible, mais il y a trois volets. D'abord, on diminue les quantités finales de déchets, parce qu'on peut brûler tout ce qui est ressorti. On peut améliorer la gestion du stock de plutonium, et on peut accélérer le retour à l'innocuité des déchets. Alors, un combustible REP, c'est un combustible des réacteurs actuels. Lorsqu'on le retraite à La Hague, actuellement, on va récupérer de l'uranium, 94 à 96%, du plutonium 1%, et les vrais déchets, c'est 4%. C'est ces vrais déchets qui vont partir qui vont être fusionnés, et c'est eux qu'on va retrouver à CIGEO ensuite. Ça, c'est un peu compliqué, c'est le cycle du combustible. Qu'est-ce qu'on peut dire, soit simple, il n'y a pas de... Si on suit le... Si on parle de l'activité minière, on remonte, on va convertir l'uranium, on va l'enrichir, fabriquer du combustible, et il y a 1000 tonnes d'uranium qui vont partir dans les REP. Oui, je veux bien, parce que c'est... Il faut suivre le cycle si on veut. Oui. Donc, on parle de l'activité minière, on tire de l'uranium, on va le convertir, on va l'enrichir, on le fabrique du combustible, on a 1000 tonnes qui vont rentrer dans nos réacteurs français, là. Ils ressortent ici usés, les 1000 tonnes, on les retraite, on va en tirer les 10 tonnes de plutonium, dont on parlait tout à l'heure, on va en tirer les déchets, les 4% dont on parlait tout à l'heure, c'est ces déchets qui après vont se trouver à déchets à vie longue, qui vont partir à CIGEO, et puis ici on va tirer d'uranium 950 tonnes, mais qui s'est un peu appauvri parce qu'il a fonctionné dans le REP, et on va le convertir, le réenrichir, et le réenvoyer ici, 150 tonnes, dans le REP. Le plutonium, les 10 tonnes qu'on a sorties, on va fabriquer du MOX avec, et ce MOX, on va le renvoyer aussi dans les REP. Voilà, c'est le cycle actuel. Mais le problème, c'est que ce passage d'uranium ici et de MOX, on ne peut le faire qu'une fois dans les REP. Parce qu'après, il y a un enrichissement en isotope pair qui fait qu'on ne peut plus passer dans les REP. Et donc, après, on va le retrouver ici en MOX usé, 120 tonnes de MOX usé, et urée usée, 150 tonnes. Alors ça, ces produits-là, si on a des réacteurs rapides sodium, on peut les brûler, les réacteurs rapides sodium. Mais si on n'a pas de réacteurs rapides sodium, ils vont devenir aussi des déchets. Et à comparer aux 40 tonnes qu'on a ici de déchets, on voit qu'on a quand même 270 tonnes de déchets potentiels. Donc l'existence de rapides sodium, ça permet de brûler ces deux produits et ça permet de minimiser les déchets finaux de la filière. Voilà ce que j'explique là. Le multi-recyclage permet de minimiser les déchets. En France, nous avons chaque année 120 tonnes de MOX usé, 150 tonnes d'uranium qui sont stockées. Sans RNR sodium, ces produits varient les déchets. Voilà. Par contre, dans RNR sodium, on peut les brûler. Et donc, ça minimise les déchets produits par le nucléaire. L'RNR sodium permet aussi de manager le stock de plutonium. Actuellement, on a 200 tonnes de plutonium. Un réacteur sodium, on peut le rendre surgénérateur si on veut produire du plutonium ou sous-générateur si on veut brûler du plutonium. Donc, au choix, on peut être surgénérateur comme un phénix pour produire du plutonium ou sous-générateur pour le brûler. Donc, on peut après, lorsqu'on dispose d'une flotte de réacteurs rapides, on peut manager son stock de plutonium à la hausse ou à la baisse, alors que sans ces réacteurs, le plutonium issu du MOX devient un déchet. Actuellement, si on n'a pas de réacteur sodium dans le futur, tout le plutonium qui est créé par retraitement va devenir un déchet stocké à la Hague. Et puis on peut baisser la toxicité des déchets qu'on va envoyer en déchets final. Parce que déjà, le retraitement, c'est déjà un élément important de baisse de radiotoxicité des produits des REP. Mais en complément, si on sépare les actinides qui sont dans les déchets finaux, et si on les envoie sur un réacteur rapide, on peut les brûler dans un réacteur rapide. Lorsque j'ai redémarré Phoenix en 2003, le redémarrage de Phoenix était fait pour faire toute une série d'essais pour brûler les actinides et démontrer que c'était possible de faire ces opérations sur un réacteur rapide sodium. Alors voilà, un combustible REP qui sort d'un réacteur. Si vous ne faites pas de retraitement, si vous le stockez comme ça sans retraitement, ce que font par exemple les Finlandais qui le stockent dans des grottes, hein, ce combustible, sa décroissance radioactive, elle est là. Et vous voyez qu'il faut entre 100 000 et 200-300 000 ans avant d'arriver au niveau du minerai d'uranium naturel, quoi, au niveau de notre jardin. Quoi. Donc il faut une durée très longue si on ne fait pas de retraitement. Si on fait du retraitement comme on fait en France, ben là, au bout de 10 000 ans, les produits ne sont plus actifs, pour ainsi dire. Il faut 10 000 ans pour arriver à baisser. C'est les 10 000 ans dont je parlais tout à l'heure pour CIGEO. Hein. Si par contre, on sépare les actinides et qu'on les brûle d'un réacteur rapide, à ce moment-là, au bout de 300 ans, les produits sont inoffensifs. Et je parle des produits les plus actifs du cœur, le combustible. Donc vous voyez l'intérêt des réacteurs rapides. Ils permettent aussi de diminuer la toxicité dans le temps des déchets finaux. Bon, ça, c'est la décroissance de la puissance résiduelle. Alors, impact environnemental accidentel. Alors, tous les opposants nucléaires, ils ont à l'esprit l'accident de Tchernobyl et puis Fukushima et l'évacuation des personnes qui étaient autour. C'est ça qui a choqué beaucoup les gens. Alors, pour les réacteurs de seconde génération qui existent, ils ont subi des stress tests après Fukushima pour les modifier, les renforcer, pour éviter ce genre de problème survenu sur un accident naturel, sur une agression externe naturelle. Mais pour les réacteurs 3e et 4e génération, les réacteurs sont conçus dès le départ pour résister à toutes les agressions maximales, en termes de séisme, en termes d'inondation, en termes de tsunami, ainsi de suite. On diminue la probabilité d'accident grave sur ces réacteurs. Et surtout, on les conçoit pour qu'on puisse avoir des possibilités de mitigation des accidents. Tous les réacteurs de 3e et 4e génération sont conçus pour que même si un accident se produit, l'accident reste confiné à l'intérieur du réacteur. Et que les gens qui sont à l'extérieur ne sont pas concernés. Ce qu'on a vu à Fukushima, l'enceinte qui part en morceaux, par exemple, vous avez vu le tableau, enfin, l'enceinte c'était des plaques de béton qui étaient sur des coulisses en ferraille. Bon, c'est des choses qui datent des années 60. Hein. À Tchernobyl, il n'y avait pas d'enceinte. Bon, les réacteurs actuels, vous voyez bien la ferraille de béton qu'on y met. C'est la raison, c'est qu'on veut que même en cas d'accident, l'accident doit rester confiné dans le réacteur. Ah, c'est la vision de l'EPR. Il y a les dispositifs de récupération du cœur fondu. On suppose d'accident maximal, le cœur fond, il tombe. Il y a un dispositif de récupération qui permet de refroidir. L'enceinte est conçue pour résister à une explosion. Il y a des recombinations d'hydrogène qui évitent l'accumulation d'hydrogène et des explosions importantes. Il y a des zones indépendantes pour les cimbres de sûreté. Enfin, il y a des systèmes d'évacuation de la chaleur même pendant un incident. Donc on est capable de dominer un incident. Même si on le rend très, très peu probable, même s'il arrive, il va rester à l'intérieur de l'enceinte. Et ça, c'est 3e, 4e génération. Et les réacteurs 4e génération ont les mêmes avantages que 3e. Et les réacteurs sodium ont un certain nombre d'avantages. On travaille sans pression, contrairement aux réacteurs à eau, où on a 140 bars, nous on n'a pas de pression. On a une grande marge à l'ébullition. Il y a une grande inertie thermique, parce qu'on a une cuve entière. On a des possibilités en convection naturelle. Par exemple, le réacteur Superphénix, c'était le seul réacteur de la filière française qui, en cas de perte d'alimentation en eau et en cas de perte de courant électrique, pouvait continuer pouvait s'arrêter et pouvait continuer à être refroidi. L'incident Fukushima, c'est-à-dire si on perd à la fois en même temps le refroidissement en eau et le courant électrique, sur un réacteur sodium, c'est pas très gênant parce que l'eau, on n'utilise pas et on refroidit à l'air, et l'air, il y en a toujours, et on peut travailler en convection naturelle. Donc si on perd le courant électrique, on fonctionne en convection naturelle et on refroidit. Dernier point, c'est minimisation de l'impact environnemental en fonctionnement. Ben, les nouveaux réacteurs sodium, Phoenix et Super Phoenix, ont montré qu'en fonctionnement, il n'y avait pas de rejet gazeux mesurable. On ne rejette rien en fonctionnement, rejet gazeux, parce que le tritium est copiégé avec l'hydrogène dans les pièges froids et dans le sodium. Et le fonctionnement en boucle fermée des circuits primaires secondaires en sodium exclut tout rejet en fonctionnement normal. Comme c'est fermé, par définition, il n'y a pas de rejet. Quoi. Le sodium tourne en boucle dans quelque chose qui est fermé, donc il n'y a pas de rejet. Pour les gens qui y travaillent, la dosimétrie, c'est-à-dire les doses qu'ils prennent, sont extrêmement faibles. Là, je donne les valeurs de Phoenix et Super Phoenix. C'est une décade de moins que les gens qui travaillent sur des réacteurs à eau, à peu près. Et là, pareil, la raison est identique, c'est parce qu'on n'ouvre jamais. Sur le réacteur à eau, c'est pendant les arrêts de cycle où on ouvre la piscine, on ouvre la cuve du réacteur, on transporte le combustible. Malgré tous les soins qu'on apporte aux opérations, il y a un petit peu de dose qui est prise par le personnel. Et sur un réacteur rapide, on n'ouvre jamais. On est en sodium, on travaille en aveugle. Donc on est bon au niveau dosimétrique. Et les dosimétries individuelles sont extrêmement faibles. C'est ridicule, quoi. Les doses moyennes prises par les gens sont inférieures à ce qu'on prend sur un vol aller Paris-Tokyo. Hein, si vous prenez un vol aller Paris-Tokyo, prenez une dose supérieure à un travailleur d'un réacteur à sodium. Hein. Et les doses que prennent les gens, c'est 250 fois inférieure à la dose moyenne, la dose que les gens prennent par radioactivité naturelle. Quoi. Extrêmement faible. Donc c'est vraiment des réacteurs d'une propreté absolue. Et tous les gens qui ont travaillé sur ces types de réacteurs sont vraiment... Enfin, on se promène sur la dalle du réacteur, on se promène et on dit il n'y a pas de dose, il n'y a rien. Quoi. Ni rejet, ni dose. Donc voilà, pourquoi on travaille sur ces réacteurs de 4e génération à sodium et pourquoi on travaille sur Astrid ? Ben, c'est que si on arrivait à refaire tourner ce type de réacteur, on aurait du combustible de manière illimitée pendant des milliers d'années, sans mine d'uranium, sans usine d'enrichissement. On a des milliers d'années devant nous. On a un cycle du combustible optimisé et permettant de réduire encore le volume de déchets qui sont rejetés et permettant éventuellement même de baisser leur toxicité en brûlant les actinides. On a des critères de sûreté renforcés qui font que même en cas d'accident grave, tout reste sur place, il n'y a pas de problème d'évacuation de la population. Et puis, aucun impact environnemental au fonctionnement. Des rejets extrêmement faibles, pas mesurables, et une dosimétrie personnelle complètement négligeable, donc en fonctionnement, c'est extrêmement propre. Voilà pourquoi on travaille sur les réacteurs de 4e génération, et donc sur Astrid. Je vais passer à la troisième partie, s'il y a des questions. Oui ?
Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'est devenu le réacteur
électronique
à Monju, au Japon ?
Ah, Monju. Oh, ça, c'est une histoire, Monju. Monju, c'est un réacteur rapide japonais qui, au démarrage, il y a maintenant 12 ans, 13 ans, a eu une grosse fuite de sodium. Alors, c'était un truc aberrant parce que quand vous avez une fuite de sodium, vous la détectez aussitôt. Qu'est-ce que vous faites ? Vous arrêtez le réacteur et vous vidangez le circuit. Il ne faut pas laisser fuir. Hein. C'est comme chez vous, couper le robinet s'il y a une fuite. Hein. Et là, quand la fuite s'est produite, les Japonais qui étaient sur la centrale n'ont pas osé prendre la décision de vidanger le circuit. Donc ils ont appelé leur chef, qui a appelé le chef, ainsi de suite. Ce qui fait que ça a pissé du sodium pendant des heures. Et donc, il y a eu 300 kg de sodium qui sont sortis. Alors le sodium, il a brûlé en partie, puis après il a fait un tas, hein, une espèce de monticule. Hein, c'est pas... Et le réacteur est arrêté et n'a pas redémarré depuis. Ça fait 13 ans qu'ils sont en discussion, c'est pour nous Français, c'est incompréhensible. Donc, ils disent toujours qu'ils vont le redémarrer. Personne n'y croit. Alors, c'est incompréhensible, comme histoire.
Vous venez de nous démontrer les capacités extraordinaires des superphéniques, enfin, des réacteurs électroniques. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, nous qui sommes aussi intelligents, du coup on les a arrêtés ?
Alors Phoenix, on l'a arrêté, c'était pour des raisons d'âge. Hein. Phoenix a marché 35 ans. Donc après, l'autorité de sûreté trouvait 35 ans, c'était assez, que ça a été construit dans les années 60. Et donc l'autorité de sûreté n'a pas voulu prolonger Phoenix. Donc ça, c'est position de l'autorité de sûreté. Pour Super Phoenix, on connaît la réponse. Super Phoenix s'est arrêté pour des raisons politiques. Parce qu'il y a eu des élections, parce qu'il fallait les voix des écologistes. Et puis, il y a eu trois décisions prises lorsque le gouvernement était formé avec des écologistes. C'était d'arrêter Super Phoenix, arrêter l'autoroute qui allait de Manosque et de Sisteron à Grenoble, et puis arrêter le canal Rhin-Rhône, qui passait dans le Doubs, c'est près de la ministre.
Mais par contre, ça a autorisé la 39 qui allait de Dole à...
Non, mais c'est autant politique, parce que le réacteur venait de passer une année où il avait tourné très bien. Avant, il était toujours bloqué pour des raisons administratives. Ce réacteur d'avait 10 ans de fonctionnement et était plus souvent bloqué pour des raisons administratives que fonctionnant. Il y a moins de jours de fonctionnement que de jours où il pouvait fonctionner, mais il n'était pas autorisé à le faire.
10 ans, c'est 54 mois d'attente administrative, 53 mois de production et 24 mois de travaux de maintenance et de travaux de modification. Pour vous donner un peu le... effectivement, c'est une décision ultra sélective, qui était, si je fais un pacte socialiste vert, et je dirais, pour que ce pacte fonctionne, ce que je mets dans la corbeille, c'est l'arrêt de Pramandi. Donc les socialistes ont été élus, et donc la décision a été prise, et tout de suite après les élections, et ça a été arrêté comme ça. Ce qui a voulu être reproduit, en fait, avec les dernières élections, et l'arrêt de Fessenheim. Sauf que le contexte réglementaire législatif a changé, et ce qui était possible à l'époque n'est plus possible aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut refaire des lois pour arrêter Fessenheim. C'est pour ça que vous voyez très bien que cette annonce qui est d'après élection n'est toujours pas tenue parce qu'elle est juridiquement intenable. Mais à l'époque, ça a été très efficace.
Une question concernant le sodium qui refroidit Superphénix ou Phénix, il tourne indéfiniment ou est-ce qu'il y a une pollution du sodium et qu'il faut recharger régulièrement?
Non, il tourne indéfiniment, il n'y a pas de perte, il n'y a pas d'évaporation, il n'y a rien. Alors il y a de l'hydrogène, de l'oxygène qui peuvent s'introduire et il y a une purification continue. Ça va vers les pièges froids avec le tritium. C'est le cas, je crois. On n'en rajoute pas en fonctionnement. Même pendant 30 ans de fonctionnement, on ne rajoute pas de sodium. Ça tourne en continu. C'est pour ça qu'on ne rejette rien. Parce que comme vous avez un réacteur à eau, vous avez forcément des rejets. Vous mettez de l'acide, des produits, de l'eau, vous la sortez de temps en temps, ainsi de suite. Là, le sodium, par définition, ça tourne en continu.
Oui. On a bien remarqué que Phénix avait super bien fonctionné pendant extrêmement longtemps. Et on a dit... Je ne suis pas du monde du nucléaire du tout, je suis du monde du climat, plutôt, c'est un autre problème. Et on a dit quand même que Superphénix était peut-être quelque chose qui était surdimensionné par rapport à Phénix. C'est-à-dire, en gros, on avait été un petit peu trop vite dans la conception d'un...
Ouais, ça a été dit. Je pense que de manière raisonnable, on aurait peut-être pu faire un intermédiaire entre 600 et 1200 MW. Enfin, cela dit, les chiffres qui sont l'arrêté de l'exploitation, c'est-à-dire un taux de disponibilité qui était très bon. Enfin, la dernière année de Superphénix a été une année de production très bonne. Bon, donc, c'est pas le problème. Il y a eu, en fait, dans Superphénix, il y a eu un problème technique, c'était la qualité d'acier
du barillet
qui permettait le rechargement en ligne. Donc là, effectivement, il y a eu une erreur de nuance d'acier qui a fait qu'on a eu un certain nombre de fissures. Donc on a dû le remplacer, comme ça coûtait très cher. On a fait un remplacement, je dirais, un petit peu à l'économie en termes fonctionnels. Bon, mais autrement, ça a fonctionné quand même très bien. Quand ça a été arrêté, le taux de disponibilité de la dernière année de fonctionnement était... extrêmement bon, meilleur que celui des REP, enfin des centrales, des réacteurs actuels.
Et c'est marrant que quand on interroge les gens d'EDF qui ont travaillé sur Superphénix et qui arrivaient des réacteurs à eau, ils disaient mais c'est facile ce réacteur, il n'y a pas de dosimétrie, au niveau démarrage il suffit de lever les barres, ça démarre. Enfin, ils trouvaient que c'était fabuleux, quoi. Ils trouvaient que c'était beaucoup plus facile d'utilisation.
Et une autre question aussi, on sait qu'actuellement on sait moduler la puissance des REP ou des réacteurs de deuxième et troisième génération, on verra. Est-ce que c'est aussi facile, ça, dans le cadre des quatrièmes générations?
C'est faisable. C'est faisable. Pour
diminuer le taux de mouvement.
C'est faisable. Les problèmes, c'est les fatigues thermiques des matériaux. Hein, parce que si vous changez la puissance sans arrêt, vous changez le niveau de température, vous changez, donc vous faites travailler plus le matériel. Quoi.
On n'a pas du tout le même niveau de température. Hein, sur une centrale REP, au niveau du cœur, on est à 300 degrés. Hein, donc là, on est à 550, on est à 550 degrés. Donc on va chercher dans les matériaux, j'ai été travailler dans une plage beaucoup plus haute. À ce moment-là, ils sont beaucoup plus sollicités. Mais autrement, j'ai d'un point de vue neutronique, c'est tout à fait comparable de la même manière avec sur une plage qui fait pas, à peu près la moitié de la plage. Quoi. C'est-à-dire sur une 1200, on va réguler de 500 à 1200, quoi, ce qui est déjà beaucoup. Mmh.
Alors,
c'est bon pour le système.
Moi, c'est juste pour une petite précision. Les réacteurs à sodium, c'est des réacteurs de quatrième génération.
Oui.
Alors du coup, en fait, concrètement, parce que vous nous avez cité des exemples de réacteurs qui tournaient déjà...
Il y a eu 19 réacteurs sodium construits dans le monde depuis 1951. C'est plus de la R&D, c'est vraiment du... Les Russes, ils ont un réacteur de 60 MW qui fonctionne, un de 600, maintenant un de 800. Donc, ouais, on est dans la production industrielle.
Donc, pourquoi... actuellement, en France, on est en train de tourner sur des réacteurs de deuxième génération.
Oui.
Et donc, dans l'idée, on va passer à la troisième et garder la quatrième pour le siècle suivant.
Voilà, quatrième, c'est Astrid, quoi, on va dire à deux mots dessus. Quatrième, c'est Astrid.
Si on n'est plus en R&D sur la quatrième génération, pourquoi pas passer de la deuxième à la quatrième directement?
Ah, ça, c'est...
Là. Justement, en complément de la question, avec les quantités de plutonium qu'on a actuellement, combien pourrait-on faire fonctionner actuellement?
On a 200 tonnes de plutonium, donc on pourrait... Ça dépend comment on construit le cœur, hein, mais on pourrait en faire pas mal. Une dizaine,
c'est
enfin...
Ça
dépend de la puissance du réacteur, ça dépend... Enfin, c'est pas facile. Mais une dizaine de réacteurs, on pourrait faire sans problème. Ouais, c'est...
Alors là encore, on est sur une décision aujourd'hui complètement politique. Jacques Chirac, avant de quitter le gouvernement, à la présidence, il avait lancé effectivement le projet Astrid. Parce qu'on savait très bien que, avec tous ces avantages qui nous ont été présentés,
et tout l'acquis
en termes d'expérience, il y avait pour la France un vrai potentiel de développement. Bon. Et puis les choses ont changé. Aujourd'hui, le gouvernement actuel n'envisage absolument pas de partir là-dessus. Donc il laisse travailler les équipes qui sont au boulot à recherche et développement, mais on n'est pas dans une situation aujourd'hui de démarrer en France une nouvelle filière. Alors ça, c'est une position franco-française qui s'entend dans un contexte politique que vous connaissez tous. Maintenant, quand vous regardez dans le monde, vous n'avez pas du tout la même approche, parce qu'il y a des tas d'autres pays, vous voyez, la Russie, la Chine, etc., qui se rendent bien compte en fait, du potentiel énergétique et de rendement énergétique et de rendement environnemental qu'il y a dans ces réacteurs, et qui n'ont pas la même expérience que nous, et qui se lancent quand même sur le sujet, parce qu'ils voient bien que le vrai avenir du nucléaire, il passera par un équilibre génération 2 plus 3 plus 4. Et quand vous avez un parc, je dirais, harmonieusement composé de génération 2, 3 et 4, vous avez un truc qui, en termes de ressources naturelles, ne vous coûte quasiment plus rien, ou extrêmement peu. Donc il y a des tas de pays qui y vont.
Mais il faut bien voir que...
En France, on est un peu timoré et on n'y va pas.
Cette décision, du coup, c'est purement politique.
Oui, c'est politique.
C'est politique et sociétaire.
Il faut bien voir que les avantages que je viens de mettre là, qui sont écrits là, pour nous c'est des avantages, mais pour un écologiste qui veut la fin du nucléaire, de manière, par définition la fin du nucléaire, c'est un chiffon rouge. Pour un écologiste qui en dit on a pour des milliers d'années devant nous, il dit oh là, faut surtout pas faire ça, faut en sortir. Et c'est pour ça que Superphénix est attaqué par les écologistes, parce que ces avantages, pour eux, c'est un inconvénient. Eux, leur théorie, c'est qu'il faut sortir du nucléaire, par définition. Dans tous les avantages qu'on a là, du nucléaire propre, des déchets réduits, des milliers d'années avec des produits existants. Ouh là là, mais ça, il faut arrêter ça. Si on est contre le nucléaire, c'est le premier truc à arrêter.
Je crois qu'il faut profiter d'être dans une école d'ingénieurs pour quand même rappeler que la filière nucléaire est une des dernières filières industrielles qui fonctionne en France et que c'est pas le moment de la fermer, quoi. C'est quand même quelque chose qui est important.
Mais les écologistes doivent peut-être quand même s'appuyer un peu sur du concret pour ce genre de choses. Parce qu'enfin, s'il n'y a absolument que des avantages à ce moment-là, où est-ce qu'ils trouvent des inconvénients ?
L'inconvénient, c'est que c'est plus cher à fabriquer parce que c'est un prototype. Quand vous démarrez quelque chose de nouveau, c'est plus cher. Est-ce que fondamentalement, c'est plus cher ? Je crois. Je crois qu'un réacteur rapide sodium est fondamentalement plus cher qu'un réacteur à eau, parce que on a plus de dispositifs, tu vois, l'eau on peut ouvrir, on peut regarder, le sodium tout se fait en aveugle, donc c'est plus cher, il y a plus de béton et de ferraille à mettre, on estime le prix à 10-20% plus cher qu'un réacteur à eau. Et par contre, à long terme, si les prix de l'uranium augmentent, le bénéfice sur l'uranium devrait compenser.
Un des éléments qui pousse à aller dans une filière type PWR plutôt que dans une filière type RNR, est-ce que c'est pas que les PWR, c'est quand même quelque chose qui est rustique, extrêmement simple, si vous avez une cuve, vous avez des générateurs de vapeur, tout est contrôlable pendant 40 ans, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, alors que ceux qui ont produit Superphénix ou Phénix, c'est quand même des choses pratiquement incontrôlables, pour être clair. On arrive avec des engins ultra sophistiqués à aller faire des contrôles. Mais si vous voulez, quand vous dites les variations de température, on va risquer de faire des fissures de fatigue, etc. Et vous le saurez comment, vous attendez qu'une fuite. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'il y a à faire, évidemment. Est-ce que le choix, il n'est pas aussi entre quelque chose de rustique et quelque chose qui est peut-être très, beaucoup plus intéressant à tout point de vue, mais bon. On n'est plus dans
l'industriel
classique.
Vous voulez un Aston Martin, non?
Non, mais dire que les réacteurs à eau sont rustiques, c'est pas si rustique que ça. C'est compliqué, un réacteur à eau. Hein.
Une rustique, comme vous dites, et une sophistiquée. Je n'étais pas trop de tableau et pas trop de crémagie. Bon, là, c'est pour un exploitant, c'est strictement identique. Quoi. Donc, à l'usage. Bon, après, effectivement, le problème du sodium fait que vos outils d'inspection sont plus compliqués et que vos procédures d'intervention sont forcément plus compliquées. On n'intervient pas dans le sodium quand on intervient dans un circuit, dans un vélo. Donc, effectivement, c'est plus compliqué. Ce que je disais, c'est qu'en coût d'exploitation, en coût de fabrication et en coût d'exploitation, c'est légèrement plus cher. Par contre, effectivement, ce qu'il faut regarder, c'est tous les bénéfices connexes, qui ne sont pas que des bénéfices économiques, qui sont aussi des bénéfices écologiques. C'est un, on arrache beaucoup moins de matière du sol, c'est-à-dire qu'on va chercher beaucoup moins de combustible. Deux, on a beaucoup moins de déchets. Et trois, on a beaucoup moins de rejets. Donc, si vous voulez, et on ramène ça à un coût de production où le coût du combustible ne fait pas 5%. Hein, c'est faux. Ce chiffre est vachement important. C'est 5% le coût du combustible dans l'électricité produite par un réacteur nucléaire, quel qu'il soit. Vous voyez que cet enjeu économique, il n'est pas si important que ça. Par contre, le reste, les avantages environnementaux sont majeurs si on se prolonge, si on se projette dans une exploitation sur 100, 200, 300, 400 ans. Parce que là, on ne discute pas d'un truc qui va durer 10 minutes. Quoi. On est bien sûr quel avenir énergétique on a pour la planète. On a des ENR et il nous faut de la base. Et la base, est-ce qu'on l'a fait avec du charbon ou on l'a fait avec du nucléaire plutôt intelligent d'un point de vue environnemental? C'est ça, en fait, le vrai choix auquel la France est confrontée. C'est pas le monde.
Oui, c'est un choix pour le monde, parce que quel dispositif connaît-on actuellement dans le monde qui produit l'énergie en grosse quantité, sans faire de déchets, sans avoir besoin de mines et sans faire de rejets? Il n'y a pas tellement de dispositifs existants disponibles.
Pour remettre ça aussi,
je voudrais intervenir pour fixer les idées, mais c'est une image que j'ai en tête. C'est bien que vous l'ayez dit. Un cargo qui transporte des containers. Il consomme 100 000 litres de gasoil par 24 heures. D'accord ? Pour se déplacer. Bon, généralement, ils font des trajets qui font 8 à 10 jours, donc ils ont 1 million de litres dans le réservoir. Alors, imaginez 1 million de litres de gasoil qui est brûlé. Bien sûr, on déplace de la marchandise. Hein. Pour ces gros cargos de 300, 400 mètres. Hein. Bien sûr, on déplace de la marchandise. Mais ça donne un ordre de grandeur. Vous imaginez la quantité que ça fait. 1 million de litres, ça fait 1000 tonnes, à peu près, 1000 tonnes de diesel qui est brûlé sur un trajet de 10 jours, avec tous les rejets, etc. Donc voilà, c'est pour fixer un peu les idées. Et là, on a fait un trajet, on a traversé peut-être l'Atlantique, le Pacifique, peu importe. Bon, tant mieux, on a dépassé des choses, on a dépassé la marchandise, mais vous voyez un peu la quantité d'énergie qu'il faut, et tous les rejets qu'il peut y avoir à côté. Donc le nucléaire, ça va être sur du stationnaire,
Bien sûr, on ne va pas mettre des piles nucléaires comme les sous-marins nucléaires sur des cargos, mais on est dans des échelles qui sont énormes. C'est ça, il faut aussi que vous ayez un peu cette idée dans la tête. Les échelles sont énormes. C'est des... Quand on dit terawatt-heure, ça ne paraît pas, il n'y a que 3 lettres.
Hein? 17h50. Bon, le temps.
Je sais pas la correspondance en pétrole, combien ça ferait, mais on parle en tonnes équivalent pétrole, des fois, il faudrait voir ce que ça porte à côté.
La comparaison est quand même difficile, parce qu'en face sur du nucléaire, on est en consommation directe, alors que sur de l'énergie fossile, on sait les stocker. L'électricité, on a quand même ce gros problème qu'on a du mal à la stocker actuellement. Donc on peut produire à fond, mais il y a un moment où...
À quelle heure faut finir alors?
Un barrage et la réutiliser quand on en a besoin.
Je vais donner quelques images du projet Astrid, parce que ce projet, donc les Français, après Superphénix, tout le monde a piqué du nez, ça a été la fin des études sur les réacteurs sodium. Et sous Chirac, on a décidé de relancer un projet pour refaire un projet de réacteur qui s'appelait Astrid. Et donc on travaille actuellement sur ce projet, et je vais donner quelques images de ce projet. Donc pourquoi Astrid? La photographie d'option, on va assez vite, l'organisation du projet, puis le futur. Alors pourquoi Astrid? D'abord c'est un réacteur de démonstration. C'est un 600 MW électrique, c'est un réacteur de démonstration avant l'échelle industrielle. Alors le but, c'est de prendre en compte notre retour d'expérience et tout ce qu'on sait sur le sujet. Le but aussi, c'est de revenir dans le jeu au niveau mondial d'un domaine où d'autres pays sont actifs. On a vu la Russie, l'Inde, la Chine qui partent là-dedans. Et nous, on était les leaders de cela il y a quelques années, donc on veut quand même utiliser notre expérience et revenir dans le jeu. Après, on veut s'ouvrir à l'international. On verra que les Japonais sont venus travailler avec nous sur Astrid, par exemple. Comme dire travailler, c'est-à-dire qu'ils ont mis de l'argent, des moyens, qui participent à Astrid. Je crois que Astrid pourrait être un réacteur commitaire, un réacteur international. On est prêt à accepter les Chinois ou accepter des Coréens sur le réacteur. Après, Astrid prend en compte les nouvelles règles de sûreté, y compris post-Fukushima, hein, qui n'était pas forcément prise en compte sur Phoenix, c'est encore moins sur Superphénix, encore moins sur Phoenix. Et puis c'est un passeport pour l'avenir. On a vu que pour l'avenir, on a quand même un moyen de produire du courant électrique avec de manière illimitée, sans aucune pollution. C'est quand même intéressant. Donc on se remet un petit peu dans le jeu avec ce projet. Alors là, je vais aller vite. Il y a un dossier de fin d'APS, à la fin de l'année. APS, c'est avant-projet sommaire. Donc il y a un gros dossier après 5 ans de travail qui a été fait fin 2015. Et ce projet présente l'ensemble du projet Astrid, avec la photographie du réacteur, les justifications des choix de conception, les premières spécifications, les plans de qualification. Donc ce projet existe, et on a des plans, on a toute une structure après 5 ans de travail. Alors une petite vue du réacteur tel qu'il est conçu actuellement. On a donc le cœur ici, tout petit ce cœur, hein, c'est un ou deux mètres cubes. On a la partie sodium se trouve là-dedans, la partie primaire. Après, on a le sodium secondaire qui sort et on va avoir des générateurs de vapeur où on fait de la vapeur et après on part vers la turbine. Hein, c'est classique, c'est la même disposition générale que ce qu'il y avait sur Phoenix et Super Phoenix. Hein. Un circuit primaire, des circuits secondaires et puis ensuite les turbines qui utilisent la vapeur sortant des générateurs de vapeur. On a les containments, un petit mot, on est sur un radier parasismique, ça c'est post-Fukushima, donc on met des radiers parasismiques pour bien résister à tout ce qui est séisme. On est aussi à des altitudes où on résiste à tout ce qui est inondation, tout ce qui est ainsi de suite. Bon, donc ça c'est du post-Fukushima. Et au niveau post-Fukushima aussi, on a la mitigation des accidents. On a quatre barrières. On a la barrière du combustible, la barrière de la première cuve primaire avec sa dalle, qui est la deuxième barrière. Puis la cuve de sécurité qui est autour, c'est la deuxième cuve qui est autour. Il y a cuve primaire et cuve de sécurité. La cuve de sécurité, c'est la troisième barrière avec la table polaire, qui est ici. Donc elle est reliée à la table polaire et ça fait une troisième barrière. Et la quatrième barrière, c'est l'enceinte. Donc contrairement au réacteur à eau, on a quatre barrières. C'est pour pouvoir maintenir, confiner toujours le combustible dans toutes les situations, même les situations accidentelles. Alors là, on voit la cuve de manière plus précise. Donc on a le cœur du réacteur qui est ici. Là, on a au-dessus, on a un bouchon couvert le cœur qui permet de surveiller les assemblages. Et puis ici en dessous, on a un sommier qui supporte tout ça. Et là, on a un récupérateur de corium. C'est-à-dire en cas d'accident grave, si la fusion du cœur, il tombe dans ce récupérateur. Et après, on peut le refroidir. On a un cœur qui est avec un faible coefficient de vidange de sodium. On y viendra. Les combustibles, c'est combustible oxyde. Ça, on est obligé d'utiliser ce type de combustible. C'est les seuls qu'on s'est retraités à La Hague. Hein. On a des systèmes complémentaires de sûreté par rapport à Superphénix. On a un récupérateur de corium en partie basse. On peut évacuer la puissance résiduelle par correction naturelle de manière très facile. Puis voilà, c'est l'agencement qu'on a actuellement. Donc vous voyez, les dessins du réacteur sont bien avancés. Hein. Il y a une note de calcul correspondante qui existe également. Alors, on a un cœur à faible vidange, c'est un cœur de réacteur qui permet, si on a une évaporation de sodium, une ébullition de sodium à l'intérieur, les conséquences sont faibles. Donc c'est un nouveau cœur, nouveau type, qui répond mieux aux critères de sûreté. En titre d'exemple, les calculs de sûreté, on suppose qu'aucune barre de commande ne tombe et que le débit de refroidissement s'arrête, et il ne se passe rien, quoi. C'est le but des calculs. Donc vraiment, on est avec des critères de sûreté complètement différents des critères de sûreté qui existaient il y a 40 ans. Pour maîtriser la réactivité, on a des barres de commande. On en a trois types. Il y a deux types de barres diversifiées, donc différentes. Et un seul type de barre suffit à arrêter le réacteur. Elle tombe par gravité. Donc c'est un problème pour que ça tombe. Même s'il y a la moitié des barres qui ne tombent pas, il ne se passe rien, parce qu'un seul type de barre suffit à arrêter le réacteur. Et en plus, on a mis un troisième type de barre, qui sont des barres passives, qui tombent soit parce que le débit s'arrête, c'est les barres qui flottent avec le débit, si le débit s'arrête, elles tombent, soit qui tombent parce que la température monte. Si la température monte de 20 degrés au-dessus de la température normale, il y a un point de Curie, ça lâche l'électroaimant et ça tombe. Donc on a un troisième système passif, et lui, il est passif, il n'y a rien à faire, il tombe tout seul. Et à lui seul, il arrête le réacteur aussi. Donc vraiment, on a des systèmes d'arrêt qui sont complètement d'une sûreté absolue. Pour la puissance résiduelle, c'est pareil. Lorsque vous arrêtez un réacteur qui s'arrête, il a encore de la puissance résiduelle. C'est le problème Fukushima. Hein. Fukushima, le réacteur s'est bien arrêté, mais après, il fallait évacuer la puissance résiduelle. Et ils n'ont pas réussi à le faire parce qu'il n'y avait plus de courant électrique, il n'y avait plus d'eau. Et à la fin ils sont montés en température et l'explosion d'hydrogène qui est arrivée, l'enceinte qui s'est cassée. Alors, donc, il faut évacuer la puissance résiduelle. Ben, nous, on a toute une série de dispositifs. Alors, RRA, RB, c'est des diminutifs. Il faut savoir, c'est des dispositifs qui marchent. C'est en sodium, en correction naturelle. Ils peuvent marcher en correction forcée ou en correction naturelle. C'est-à-dire que si on n'a pas de courant électrique, on arrive à évacuer avec la correction naturelle la puissance résiduelle. Et le refroidissement se fait avec de l'air. Donc l'air, il y en a toujours. Et on n'utilise pas d'eau. L'eau est un peu proscrite sur le réacteur. Pour l'inspection, tout à l'heure on parlait d'inspection en service, ben on la prévoit dès le départ. Donc dès le départ, on a prévu des systèmes d'inspection en service qui permettent de faire l'inspection de manière relativement industrielle. Lorsque le réacteur s'arrête, après un cycle, on peut aller inspecter un certain nombre de soudures, un certain nombre de structures, et c'est prévu dès le départ. Par exemple, on a un rail entre les deux cuves qui permet de faire circuler un appareil qui vérifie les soudures entre la cuve principale et la cuve de sécurité. On a aussi des passages qui permettent d'aller vérifier qu'il n'y a pas de fissures sur les structures internes. Donc tout ça, c'est prévu au départ. Au départ, on décide de ce qu'on veut inspecter. Ça répond un petit peu aux questions sur l'inspection qui n'avaient pas été prévues à Superphénix. Et là, on a prévu des choses qui sont, dès le départ, inspectables. Ça, c'est un gros changement aussi. Là, c'est la vue de la dalle, où on voit les composants qui sortent de la dalle. les échangeurs, les pompes. Et on voit un petit bonhomme là qui donne la taille un petit peu. On voit quand même que ça fait une grande taille quand même. Hein. Ben, Superphénix, c'était encore plus grand. Là, c'est la manutention. Alors, après l'expérience Superphénix, où le barillet avait été supprimé, finalement, à cause des problèmes de matériaux, ben, finalement, on a pris cette expérience pour faire de la manutention. Quand on sort les assemblages, ils vont directement dans des puits de lavage. Puis ensuite, on peut les stocker. Il y a une piscine de stockage des assemblages irradiés dans l'eau. Après, une cellule pour les objets irradiés qu'on peut stocker aussi dans l'eau. Et puis, les assemblages neufs sont ici, à droite. Donc, il y a les flèches montrent les problèmes de transport dans des hôtes qui permettent d'amener les assemblages neufs dans le cœur du réacteur ou sortir des assemblages usagés pour les laver et les stocker en eau ensuite. Donc ça, c'est le système de manutention qui est actuellement prévu sur le réacteur. On a des gros systèmes au niveau du pour éviter les réactions sodium OR au niveau de l'échangeur, au niveau du steam générateur, du générateur de vapeur. Au niveau du générateur de vapeur, on a des systèmes pour éviter des incidents sodium OR. En fait, c'est une bunkerisation de la zone qui permet de séparer strictement l'eau du sodium. Et même en cas de chute d'avion qui tombe dessus, il ne se passe rien. Quoi. Ça coûte cher, par contre. C'est des dispositifs de sûreté, ça coûte extrêmement cher. Ça, c'est le site, comme on peut le voir, le dessin du site. Ce site, c'est près de Phoenix. C'est tout à côté de Phoenix, c'est le terrain qui a été acheté tout à côté, c'est au bord du Rhône. On a le bâtiment électrique, l'hélio conventionnel qui a la turbine, d'Alstom, le réacteur, les générateurs de vapeur de chaque côté, et le bâtiment combustible de manutention qui est sur la droite. Ça, c'est le schéma de l'implantation. Alors, on travaille aussi sur une option où il n'y aurait pas d'eau. Au lieu de refroidir, de faire de la vapeur d'eau avec des générateurs de vapeur, on travaille sur une option où on réchaufferait de l'azote. Donc il y aurait des changeurs sodium-azote, et c'est l'azote chaud qui irait faire tourner la turbine. Là, ça nous évite les réactions sodium-O, les réactions sodium-O-R, et ça permet d'avoir une centrale sodium, finalement sans eau, et avec des grands volumes d'azote, permettant de faire l'inertage aussi. Donc les problèmes chimiques liés au sodium sont à ce moment-là beaucoup moins... Il y a beaucoup moins de problèmes chimiques liés au sodium.
Ça résout les problèmes écolos. C'est un truc
de moins
pour les écolos.
Voilà, tout de moins, c'est médiatique. Ça permet d'avoir un réacteur où on dit il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'air. Et éventuellement, il n'y a pas d'air.
Les écolos.
Donc, c'est.
C'est étudié pour Astrid, ça ?
Pour Astrid. Ah, oui. Donc, ça fait un. C'est des turbines qui sont turbines qui fonctionnent avec l'azote. D'accord. À haute température, qui passe à la turbine, fait tourner la turbine, qui revient. Cycle de Brayton. Donc on travaille sur les turbomachines aussi, avec Alstom, et c'est peut-être la solution. Les deux solutions sont en parallèle actuellement. Puis sur l'avantage, c'est quelque chose de nouveau. Quoi. L'échangeur sodium gaz qu'on voit là, il est actuellement testé à Cadarache, en sodium. Là, on travaille avec Bouygues pour la constructibilité du réacteur. Hein. Il faut prévoir les grues correspondantes, enfin bon, ça c'est un point de détail. L'organisation du projet, ben, si vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Le COA est maître d'ouvrage, pilote stratégique. Il y a une cellule projet Astrid, la CPA, on appelle ça, qui pilote. Et c'est relié d'un côté à tous les organismes de R&D, qu'on voit à gauche. Et puis ici, tous les relais Astrid à Marcoul, l'assistance EDF. Et puis tous les industriels qui travaillent avec nous sur les systèmes. On a un schéma industriel assez puissant, puisqu'on a maintenant 14 partenaires qui sont venus se rejoindre, y compris pas mal de Japonais qui commencent à venir. Mitsubishi, Toshiba, Jawa, quand les Japonais sont rentrés dans le projet Astrid. Ça, c'est un point très positif. Ils apportent 20% du financement et finalement, ça devient un réacteur franco-japonais, un peu comme Atmea, quoi. Ça, c'est un point assez nouveau par rapport au démarrage d'Astrid il y a 5 ans. Et on n'espère pas de faire venir les Chinois ou les Coréens. On va les voir, on discute avec eux. Je suis dans les temps. Et donc, en conclusion, fin 2015, on dispose du remontage complet et cohérent du réacteur. Documents disponibles et ouverts. C'est une base de départ pour continuer les études. La collaboration avec les Japonais est très opérationnelle maintenant et l'ouverture à d'autres partenaires étrangers se poursuit. Le dessin d'Astrid comporte beaucoup d'avancées et permet de répondre aux nouveaux critères de sûreté des réacteurs 4e génération, aussi bien pour la résistance aux agressions externes que pour la mitigation des accidents, que pour diminuer les probabilités d'accidents également. Tout ça, on réussit à répondre aux nouveaux critères. Et actuellement, on a un financement qui est en place jusqu'en 2019. Vous allez me dire, les élections en 2017, ça peut changer. Et pour le moment, le financement est en place jusqu'en 2019. Et pour passer d'un stade d'avant-projet sommaire à un stade d'avant-projet détaillé, qui permet la construction après. Et pour aussi pour sortir entre la version gaz et la version eau, pour faire un petit peu le bilan et voir ce qu'on retient. Voilà, donc les Français sont toujours en lice, plus ou moins, sur les réacteurs à sodium, malgré l'arrêt de Superphénix. Et j'espère que je vous aurai convaincu sur les avantages de ces réacteurs pour le futur.
C'est pas mal. Oui, dans les transferts, quel est le pourcentage de transfert de personnel? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a récupéré comme personnel sortant de Phénix ou de Superphénix?
Très peu, ils vieillissent. Si, si, mais sur Astrid, il y a presque plus de. Au début, il y avait des gens de Phénix, Superphénix, mais ils partent tous à la retraite actuellement. Et justement, l'intérêt d'Astrid, c'est aussi qu'il y a eu un passage de relais quand même. Et ça, c'est clair, il y a un passage de relais. On a des gens maintenant de 30 ans, de 40 ans, qui connaissent bien le sujet. Et je crois qu'on partira à la retraite, on serait moins inquiet en partant à la retraite.
Une question un peu équivalente au niveau des moyens industriels.
Oui?
Dans l'hypothèse de la construction,
oui.
Est-ce qu'on dispose en interne européen?
Alors, la réponse est double. D'un côté, les industriels sont intéressés, ils sont venus dans le projet, ils se placent. De l'autre côté, est-ce qu'ils sont compétents pour le faire? Clairement, il y a des domaines non. Mais c'est pareil pour Superphénix. Je me souviens quand on a lancé Superphénix, il fallait faire des pompes, par exemple des pompes qui sont grandes comme le bâtiment ici, là. Et c'est Jérôme Schneider qui a pris le contrat, mais il n'avait pas d'atelier inox. Donc il a créé l'atelier inox pour pouvoir fabriquer ses pompes. Après, il les a fabriquées. Hein. Mais forcément, au départ, il faut investir. Quand vous voulez un nouvel instrument que l'industriel ne fabrique pas pour le moment, forcément, il faut investir au départ. C'est pour ça que les prototypes coûtent beaucoup plus cher que les réacteurs établis. Si vous faites un réacteur tous les deux ans, les prix baissent parce que l'industriel, il sait tous les deux ans qu'il va devoir fabriquer des pompes, des échangeurs. Donc il s'équipe et puis après, il amortit sur tous les composants. Si vous faites un prototype unique, ça coûte beaucoup plus cher.
Une question de détail, donc générateur de vapeur, les tubes sont droits ou...
Ils sont à hélice, comme Superphénix. Ah, ça c'est davantage inconvénient. C'est des avantages et inconvénients. Pour l'inspection, quand même, sur Phénix, on avait quand même mis en point un système qui permettait de rentrer dans les tubes et de faire une vérification de l'état des soudures. On ne faisait pas tous les tubes. Il fallait faire 10% ou 5% des tubes pour vérifier qu'ils étaient en bon état. On savait faire quand même. C'était mis au point sur Phénix.
J'ai une question. Parce que là, simplement, j'ai l'occasion de visiter des labos à Kadara qui reprennent un peu tous les circuits du sodium et tout ça. Tout ce qu'on peut mettre. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'avec les nouvelles technologies, on peut se permettre de faire des contrôles in situ, des contrôles en entrée dans l'installation, beaucoup plus avancés qu'on le faisait au préalable.
Ah oui, c'est vrai.
Le message que je veux faire passer, c'est que toutes les nouvelles technologies, en termes de mesures, capteurs, acquisition de données, l'imagerie, vont être intégrées dans ces nouveaux concepts de centrales. Mmh. Tous les métiers que vous apprenez aujourd'hui, on n'avait pas ça à l'époque pour construire, mais ça sera primordial pour les réacteurs du futur. C'est un message que je veux faire passer, c'est qu'il y a peut-être de l'ancienne technologie, mais il y a encore beaucoup de choses à faire dans ces domaines-là, pour la sûreté, pour d'autres domaines, et c'est vous qui allez l'apporter, ça. Est-ce que les choses ont évolué?
Justement, pour revenir sur ce que vous dites, cette dernière partie, donc, vous nous montrez beaucoup toutes les nouvelles technologies et les nouvelles protections qui sont mises en place pour éviter les incidents. Mais en fait, justement, au vu de toutes ces protections qu'on rajoute, donc basées sur les expériences passées, sur les accidents qui ont déjà eu lieu et tout ça, est-ce qu'on est en droit de se demander si réellement la fission nucléaire qui se passe réellement à l'intérieur du réacteur, est-ce que c'est réellement quelque chose qu'on gère très bien ou... Pas tout à fait.
Parce que quand vous avez parlé, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous avez parlé des barres de contrôle, avant c'était des systèmes mécaniques. Là, on cherche des systèmes un peu passifs, mais qui se déclenchent automatiquement. Oui. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas fonction aussi d'un command control ou pas fonction d'un facteur humain. Donc ça, c'est une autre conception. Mais ça veut dire aussi qu'il faut modéliser les systèmes, modéliser les gradients de température. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels on n'avait pas, c'est-à-dire la simulation numérique de tous les circuits, de tous les échanges thermiques, avec les outils fondamentaux, avec les ordinateurs, ça permet d'atteindre et de maîtriser ça.
Je suis d'accord, mais voilà, donc justement, les barres de commandes qui sont donc dirigées par l'électroaimant, donc par exemple en cas de coupure de courant, je suppose que l'électroaimant ait pu alimenter les barres tombes,
oui.
Ce qui permet d'arrêter le réacteur, mais donc on est encore sur en fait une technologie de protection contre...
Non, mais il y a d'autres technologies, par exemple, pour là, vous avez évoqué des systèmes qui, en fonction de la température...
Oui, voilà. Mais
donc ça veut dire qu'il faut bien connaître parce qu'il faut bien voir que ça fonctionne au bon moment, c'est-à-dire au moment où on veut, mais pas à n'importe quel moment. Donc ça veut dire qu'il faut simuler le fonctionnement de ces réacteurs dans tous les moindres détails, mettre des systèmes innovants pour répondre à ces besoins-là.
Alors je ne mets pas du tout en cause l'efficacité des protections qu'on met en place. Je dis que justement, en fait, on est justement en train de développer un certain nombre de protections parce que réellement, en fait, la fission, c'est quelque chose qu'on a quand même du mal à gérer au départ.
Ah,
vous étudiez la physique du réacteur, c'est clair.
Je ne le dirais pas comme ça, parce que si, quand vous regardez tous les accidents qu'il y a eu, vous regardez Fukushima, ce n'est pas un problème de fusion ou de fission, c'est un problème de maîtrise de l'hydrogène et du rapport d'hydrogène et d'oxygène dans un bâtiment. L'explosion n'est absolument pas nucléaire, c'est une explosion chimique. Effectivement la fabrication d'hydrogène, et ensuite ça a explosé. Donc toute la partie, et ensuite, une fois qu'il y a eu ça, comme il n'y avait pas de refroidissement, on est parti sur un problème thermique. Mais la réaction nucléaire était arrêtée instantanément, et ça, c'était parfaitement maîtrisé. Tout le problème, c'est qu'après, on était avec une cocotte minute, qui était toujours sur une plaque qui n'était pas complètement éteinte, parce qu'il y avait de l'énergie résiduelle, et de la chaleur résiduelle, et ça, c'est un problème de mécanique. Vous voyez, c'est pour ça. Alors, ce qui est vraiment intéressant dans ce qui a été dit tout de suite, c'est que on est passé d'une approche qu'on appelait probabiliste à une approche déterministe. Je vous fais simple, c'est qu'autrefois on disait oui, il y aura une chance sur 300 millions que le truc qui pète, on disait bon, ça va bien aller, parce qu'on aura de la chance. Donc, aujourd'hui, on est passé, et donc à ce titre-là, on a fait des impasses, mais on a fait un certain nombre de raisonnements qui ont pu avoir leurs limites. Et aujourd'hui, on est sur une approche qui est beaucoup plus déterministe. Ça veut dire qu'on dit on vise le zéro accident. D'où effectivement une démarche. C'est assez différent, c'est qu'avant on disait avec ça, ça devrait passer, tandis que là maintenant on va dire qu'est-ce qu'on va mettre pour être vraiment sûr que l'accident ne passe pas. Et donc c'est là qu'on met trois dispositifs, un qui marche à l'eau, un qui marche à l'air, un qui marche tout seul. C'est là qu'on va mettre effectivement énormément de surveillance en exploitation de manière à s'assurer que tout se passe bien pour eux. Donc si vous voulez, on est sur un renforcement pour viser. Aujourd'hui, dans la philosophie de construction de génération 3 et génération 4, le zéro accident, ce qui n'était pas la philosophie initiale, je dirais, de la conception des réacteurs de première et deuxième génération.
Et pour arriver à faire la démonstration...
C'est très différent comme approche sûreté.
Et pour arriver à faire la démonstration, en gros, ces réacteurs sont plus simples, plus pardonnants et plus passifs. Il y a beaucoup de systèmes passifs qui sont introduits, de manière que, pardonnant, ça veut dire pour l'évacuation de puissance résiduelle, si on ne fait rien pendant 2 jours, ce n'est pas grave. Il y a une inertie thermique qui fait que, bon... Et après, si on veut l'évacuer, c'est passif. On ouvre une trappe et l'air circule et ça évacue. Pour l'arrêt du cœur, la maîtrise de la réactivité, on a vu qu'il y a un système de barre de commande passif qui tombe d'elle-même, sans contrôle commande, sans rien, parce que la température monte, elle tombe. Ou parce que le débit s'arrête, elle tombe. Donc c'est très passif, il n'y a pas tellement de possibilités que ça ne fonctionne pas, je veux dire. Et donc ces réacteurs sont plus simples, et plus simples, c'est pas sûr, parce que la passivité, c'est pas forcément simple, mais ils sont plus passifs et plus pardonnants.
Ils sont plus compliqués
à concevoir.
Pour avoir les limites basses et hautes, les seuils de fonctionnement et tout ça, ça demande beaucoup de simulation.
Voilà,
c'est des... Simulation, c'est les numériques, c'est les calculs, c'est bien la conception qui va faire la sûreté.
Et ils sont plus chers aussi. La sûreté a un prix. Hein, c'est...
Dans tous les domaines technologiques, de toute façon, c'est la conception qui prend de plus en plus d'importance.
en amont, avec tous les moyens que le développement de moyens qu'on a, la conception au niveau de la simulation du fonctionnement, la conception de la surveillance du système, on voit dans les usines et tout ça, qu'on n'avait pas à l'époque. Et donc il y a encore tout un champ à explorer dans ce domaine-là.
Une question.
De plus en plus, on parle de démantèlement. Alors, est-ce qu'on conçoit maintenant le démantèlement ?
Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Donc le démantèlement, il est entamé à Superphénix, hein, il se déroule suivant le planning imputé. Donc à Superphénix, ça avance bien, je peux le dire.
On a fini d'enlever tout ce qui était sodium, et ensuite on commence à se mettre en position pour le découpage de la cuve. Ça veut dire qu'on est en...
Superphénix, ils ont enlevé les composants, ils ont enlevé les circuits secondaires, ils ont fait disparaître tout le sodium. Là, ils sont dans la phase avec des robots, ils promènent dans la cuve avec des robots pour couper certains morceaux qui sont suspects, je dirais, suspects de contenir du sodium.
La question, c'est est-ce qu'on a impacté sur la construction ?
Oui, bien sûr, il y a un retour d'expérience qui fait qu'il y a quelques points où on dit, si on ne veut pas t'embêter au démantèlement, il faut mieux faire comme ci, il faut mieux faire comme ça. Par exemple, la dalle, il y a des dépôts de sodium sur la dalle de Superphénix qui les gênent un peu pour le remplir en eau. Nous, on fait une dalle tiède qui est pas, où le sodium ne peut pas se figer parce qu'elle a plus de 100 degrés. Donc le sodium, il reste liquide, il retombe. Et donc, on n'a pas de déposition dans la dalle, par exemple. Enfin, il y a des dispositifs. Pour les pièges froids aussi, on a des retours d'expérience. Pour l'utilisation de la cellite aussi, qui a du cobalt et qui s'irradie, on essaie d'éliminer. Enfin, il y a des retours d'expérience qui font qu'on change un peu la conception pour être en meilleure position pour le démantèlement. Mais ceci étant, le démantèlement est faisable. Hein. Il n'y a pas de point dur.
Vis-à-vis des chutes d'avions.
Oui. C'est les coques-avions, c'est un peu comme le PR, c'est la coque-avion qui est disposée. Et alors la coque-avion, elle est disposée au primaire, au-dessus de l'enceinte. Hein. Et puis au secondaire, il y en a une actuellement. Mais si on passe au système gaz, il n'y en aura pas. Le système gaz, ce n'est pas la peine d'avoir un coque-avion avec de l'azote. Hein. C'est au cas où on a du sodium et de l'eau qu'on gardera une coque-avion. Mais sinon, on le fera sauter. Et la coque-avion, c'est ce qui a imposé un petit peu sur tous les réacteurs actuellement, de Génération 3 à Génération 4, quoique... Sur le nouvel EPR, ils réfléchissent à une enceinte unique qui résisterait à l'avion sans coque-avion.
Oui, mais c'est le même cahier des charges.
Le même cahier des charges.
C'est résister à la chute d'un avion ligne avec son plein de carburant.
C'est ça qui est un peu dimensionnant pour l'enceinte. Et même l'accident. Ça démontre aussi qu'en cas d'accident, tout resterait à l'intérieur de l'enceinte. Quoi. C'est vrai quand on voit les photos, quand on voit le béton et la ferraille qu'on y met, c'est impressionnant.
S'arrêter.
Oui, on m'a dit d'arrêter à 4 heures, donc il est 4h24. Donc... Faut que je rende.